Très bien. Vous m'entendez correctement? Parfait. Donc, en attendant, si quelques personnes arrivent encore, je peux quand même commencer sur des choses tout à fait ordinaires pour moi, mais peut-être pas pour vous. Alors, on fait des conférences avec l'Espace Mendès France depuis plus d'un an maintenant. Et le on fait des conférences. Le on, c'est le réseau Veille-Sommeil en Poitou-Charentes. Donc ce réseau Veille-Sommeil en Poitou-Charentes a été créé par des médecins qui s'intéressent aux pathologies du sommeil dans la région Poitou-Charentes. Donc c'est tous les médecins, pneumologues, toutes les gens qui s'intéressent au sommeil et aux pathologies du sommeil. Ce réseau a pour objet essentiellement, c'est une association loi 1901, qui a pour objet de faire de la prévention, l'éducation auprès du grand public, mais aussi de former les médecins aux pathologies du sommeil. Parce qu'il y a un vrai manque de formation auprès du sur le sommeil, notamment pendant les études, ça représente vraiment très très peu de formation. Et il y a des pathologies du sommeil spécifiques, l'insomnie, d'autres pathologies comme les mouvements de jambes au cours du sommeil, les mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil, et puis les apnées du sommeil dont on va parler aujourd'hui. Et je remercie l'Espace Mendès France de pouvoir de nous accueillir gentiment pour pouvoir ainsi faire de l'éducation et vous informer sur les apnées du sommeil et en même temps sur le sommeil. En tout début, je fais toujours un petit rappel sur ce qu'est le sommeil et quelques conseils sur le sommeil à la fin. Et puis vous, quand vous allez avoir ces informations, eh bien de faire diffuser la connaissance autour de vous, parce que vous savez que en particulier les apnées du sommeil, eh bien c'est une pathologie extrêmement fréquente et c'est très peu pris en charge, tout simplement parce que eh bien le diagnostic n'est pas fait. Les gens pensent être dans un état à peu près physiologique et normal, alors qu'ils ont des apnées du sommeil qui ont des conséquences importantes. Alors, je vais vous présenter cette petite conférence qui va durer, je l'espère, 40-45 minutes. Si je suis trop long, ben vous m'arrêtez. Et vous pouvez toujours, à tout moment, me questionner, lever la main, si vous ne comprenez pas ce que je dis, ou si vous avez une question spécifique sur ce que je suis en train de dire. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du sommeil en général, pour que vous puissiez ensuite donner cette information et comment ça marche de manière très très simple, hein, j'espère, pour que vous puissiez utiliser cette information pour vous-même et l'expliquer aux autres. Et puis on essaiera de comprendre ce que sont que les apnées, quels sont les signes qui sont induits par la présence d'apnées au cours du sommeil, quel traitement, et est-ce qu'on peut prévenir ces apnées? Vous verrez qu'on peut faire parfois quelque chose pour prévenir, et on va parler de tout ça. Alors tout d'abord, je vais vous parler du sommeil et de manière très brève, une première chose, c'est que le sommeil est propre à chaque personne. Donc vous ne pouvez pas comparer votre sommeil à celui du voisin. Et donc en particulier votre époux, votre compagne, vous ne dormez pas de la même façon. Il y a un caractère génétique aux caractéristiques du sommeil pour chaque personne. Et donc si une personne vous dit, moi j'ai besoin de 9 heures de sommeil et je suis bien, et que vous dormez 7 heures de sommeil, hein, c'est les caractéristiques court et long dormeurs. Hein, les courts dormeurs sont des gens qui dorment moins de 6 heures et qui sont bien dans la journée et qui n'ont pas de besoin de plus, ils ne font pas de sieste. Ces courts dormeurs, eh bien, c'est leur caractéristique. Les longs dormeurs sont des gens qui vont dormir 9h30 par 24 heures. Le temps de sommeil est estimé par 24 heures. Donc si vous avez des personnes âgées autour de vous qui dorment 4 heures dans la journée, qui sont des dormeurs intermédiaires, environ 8 heures de sommeil par 24 heures. Si vous dormez 4 heures dans la journée, vous comprenez que la nuit, vous dormirez 4 heures. Et donc, si vous vous couchez à 20 heures ou 21 heures, comme fréquemment les personnes âgées, eh bien, vous vous réveillez automatiquement et physiologiquement à 1 heure ou 2 heures du matin. Et vous n'avez plus envie de dormir. Et puis, de 2 heures à 6 heures ou 7 heures du matin, vous restez au lit, tout simplement, parce que c'est la coutume, et puis le fait social, ben dans la société, on se lève à 6 h ou 7 h, 8 h du matin. Et vous allez vous plaindre d'une insomnie qui est simplement le fait d'un sommeil que vous prenez dans la journée. Donc, court et long dormeur, bon, ça, c'est des caractéristiques qu'il faut connaître. Une fois qu'on a compris qu'on avait besoin de 9 heures de sommeil et non pas de 7 heures, parce qu'on a lu dans un magazine que le temps de sommeil moyen, c'était entre 7 et 8 heures, donc je dors 9 heures, 1 heure de trop, mais une personne qui a besoin de 9 heures, qui dort 7 heures, c'est 2 heures en moins par jour de sommeil. Donc, si vous avez besoin de 9 heures, dormez 9 heures. Essayez de trouver le temps de dormir 9 heures. Puis, vous pouvez être du matin ou du soir. Voilà. Les gens du matin ou du soir. Les gens du matin sont les gens qui se couchent tôt, qui se lèvent tôt. Il n'y a pas de définition propre. À quelle heure on se couche tôt? Ben, ça dépend des gens. C'est 21h, 22h, 22h30, 23h. Et qui vont se lever tôt, se réveiller tôt, 6h du matin, 7h du matin. Mais qui vont avoir des difficultés à prolonger le matin. Ils ne pourront pas se lever à midi, 1h de l'après-midi. Ce n'est pas dans leur physiologie. Ça, c'est le réglage par l'horloge biologique. Ces caractères sont liés à l'horloge biologique. Tout le monde a une horloge biologique qui nous fixe ça. Et puis, il y a des gens, alors du matin ou du soir. Donc, les gens du soir sont des gens qui ont une facilité à prolonger la soirée, qui vont pouvoir se coucher à minuit, minuit et demi, 1h du matin, 1h30, 2h. Sans difficulté, ils vont pouvoir se poursuivre la soirée. La difficulté pour eux, c'est de se lever le matin. Donc, s'ils vont au travail, eh bien là, ils vont avoir facilement des dettes de sommeil. Donc, ces caractéristiques, il faut absolument les identifier si on a des troubles du sommeil. Et en particulier pour les gens qui ont des horaires de travail irréguliers. Donc, ça a des conséquences si on ne connaît pas bien sa typologie. Et puis, il y a des gens qui font la sieste ou qui ne font pas de sieste. Alors, peut-être un jour, on fera une session sur la sieste. Si ça vous intéresse, on peut faire ça. Est-ce qu'il faut faire ou pas la sieste? Eh bien, ça dépend. Là encore, c'est lié à la personne. C'est lié au travail, c'est lié au manque de sommeil. Il ne faut pas faire la sieste n'importe quand. Donc, je ne vais pas vous faire un topo sur la sieste. Mais sachez qu'il y a des gens qui ont besoin de cette sieste physiologiquement en début d'après-midi. Donc, tout le monde en début d'après-midi a une baisse de vigilance. C'est normal. C'est là où on a les accidents de voiture. Mais tout le monde n'a pas besoin de dormir. Certains élèves, certaines personnes adultes ont un besoin de sommeil de quelques minutes parfois, 3, 4, 5, 10 minutes, mais pas d'une heure et demie. Les siestes, ce n'est pas une heure et demie, c'est quelques minutes, 20 minutes maximum. Donc voilà quelques éléments que je voulais rappeler. Et la structure du sommeil, avant de parler des apnées. Bon, le sommeil, ça c'est pour un adulte jeune, c'est structuré en cycles de 90 minutes à peu près. Ça peut être 100 minutes, ça peut être 110 minutes, ça peut être moins 80 minutes. Mais ces cycles se répètent dans la nuit de manière à peu près identique, pas tout à fait, car les premiers cycles comportent du sommeil profond, en gris ici, donc beaucoup de sommeil profond, qui est le sommeil réparateur. Et dans les apnées du sommeil, ben, ce qui manque, c'est le sommeil profond. Donc le sommeil profond est en début de nuit, et puis au cours de la nuit, il diminue progressivement au cours des cycles, et puis dans les deux derniers cycles, enfin dans les derniers cycles, il n'y a plus de sommeil profond, et vous faites plutôt du sommeil léger, en bleu pâle ici, du sommeil léger et beaucoup de sommeil paradoxal, en vert. Et le sommeil paradoxal, c'est ce qui définit la fin du cycle de sommeil. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Donc si vous vous réveillez en fin de nuit pendant une phase de sommeil paradoxal, eh bien, vous avez l'impression d'avoir rêvé, dans 4 fois sur 5 à peu près. Si vous vous réveillez en sommeil léger ou en sommeil profond, vous avez des difficultés à dire que vous avez rêvé. Mais en fait, on rêve dans tous les stades de sommeil. La structure des rêves n'est pas la même. Les rêves dont on se souvient facilement, ce sont les rêves du sommeil paradoxal. Donc, sommeil paradoxal définit les cycles et arrive en fin de nuit. Donc, les courts dormeurs, en fait, font 3, 4, 5 cycles de sommeil et les longs dormeurs font 5, 6, 7 cycles de sommeil. C'est ça la différence. Et les cycles qui sont ajoutés pour les longs dormeurs, ce sont des cycles de sommeil léger. Et donc, tout le monde fait à peu près la même quantité de sommeil profond. Donc, quand on est court dormeur, ce qu'on élimine, c'est la fin de la nuit ici. Donc, si vous faites 2 cycles de sommeil dans une nuit, vous faites, et si vous n'avez pas de problème de sommeil particulier, vous faites beaucoup de sommeil profond dans les 2 premiers cycles. Donc, vous allez faire, s'il n'y a que 2 cycles de sommeil, environ 50% de sommeil profond. Donc, ici, le sommeil profond dans une nuit, ça représente 20% à peu près, 20-25% du temps de sommeil, un quart du temps de sommeil. Le sommeil léger, ça représente la moitié, 50% du temps de sommeil. Et le sommeil paradoxal, environ un quart du temps aussi, 25%. Donc vous passez un quart du temps à rêver la nuit. Et ce qui se passe quand on vieillit, c'est que ces phases de sommeil profond deviennent de plus en plus légères, de moins en moins profondes, et on va se réveiller très facilement à la fin de chaque cycle de sommeil. Et à partir de 40 ans, 45, 50 ans, on a des éveils très fréquents la nuit. C'est ressenti comme des éveils très fréquents. En fait, si vous posez la question, la personne vous dit « mais ça survient à peu près toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, je me réveille. » Oui, d'accord, mais on se réveille à la fin de chaque cycle. Et ça, c'est fréquent quand on vieillit. Et tous les gens âgés vont avoir ces réveils fréquents. Et ensuite, ce qui est normal, c'est que ces éveils vont durer de plus en plus longtemps. Donc on va être initialement, quand on est jeune adulte, on ne se réveille pas ou on se réveille, ça va durer 1 ou 2 minutes. Et puis, la durée de ces éveils va se prolonger pour durer parfois 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et ça, ça devient extrêmement pénible et c'est une plainte d'insomnie qui n'en est pas une, c'est simplement le vieillissement du sommeil. Et vous savez que le sommeil vieillit, vous ne savez pas, mais votre sommeil vieillit comme vous, vous vieillissez. Votre cerveau vieillit, la mémoire devient moins bonne et le sommeil vieillit aussi. Donc, vous ne pouvez pas comparer votre sommeil au sommeil de vos 20 ans. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Si vous voulez dormir comme quand vous aviez 20 ans, eh bien vous êtes en difficulté puisque vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Donc ne cherchez pas à dormir comme quand vous aviez 20 ans. Ne prenez pas des hypnotiques, c'est inutile. Il y a d'autres systèmes pour bien dormir que les hypnotiques. Et puis, dernier élément d'information qui va être important pour comprendre pourquoi on dort. Tout simplement, si vous dormez la nuit, c'est que dans la journée, vous accumulez un besoin de sommeil parce que vous ne dormez pas. Donc, dans la journée, on accumule ce besoin de sommeil. Et ce besoin de sommeil, on l'a identifié, on sait ce que c'est. C'est une molécule qui s'accumule dans le cerveau qui s'appelle l'adénosine. Donc, quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas envie de dormir, tout simplement parce que cette molécule a été dégradée par le cerveau. Vous l'avez utilisée pendant la nuit, vous l'avez éliminée. Et au fur et à mesure de la journée, vous êtes éveillé et actif. Et cette molécule, l'adénosine, c'est un métabolite d'une autre molécule qui est la molécule de l'énergie, qui est l'ATP. Donc cette molécule qui vous permet de bouger, qui vous donne de l'énergie, eh bien, si vous faites marcher un véhicule avec de l'essence ou du diesel, vous dégagez du gaz carbonique. C'est un déchet. Cette adénosine est un déchet de l'ATP, de l'énergie que vous consommez. Eh bien, plus vous êtes actif, c'est-à-dire plus vous êtes éveillé, plus la durée de l'éveil est longue, plus vous accumulez de l'adénosine. Vous dégagez du déchet, de l'adénosine. Et cette adénosine va se fixer sur des récepteurs dans le cerveau. Et arrivé le soir, eh bien, il y a suffisamment de concentration d'adénosine dans le cerveau pour vous donner l'envie de dormir. Donc ça, c'est l'aspect régulation du sommeil. Mais en même temps, vous avez l'horloge biologique qui vous indique que c'est le moment de dormir. Donc si vous ne dormez pas à ce moment-là, vous pouvez résister. Mais l'adénosine continue de s'accumuler. Et vers 3h, 4h du matin, vous dormirez de toute façon. Parce qu'on va vous imposer le sommeil. Et si vous faites une nuit blanche, eh bien, le lendemain, vous aurez des difficultés à rester éveillé dans la journée parce que vous n'avez pas éliminé cette molécule. Donc comprenez bien, cette accumulation de ce besoin de sommeil, qui est une molécule en fait, pendant la journée, et plus on est éveillé longtemps, plus on aura envie de dormir. Mais l'envie de dormir ne surviendra qu'à des moments précis dans la journée qui sont fixés par l'horloge biologique. Mais si vous restez 48 heures éveillé, quelle que soit l'heure, en fait, vous finirez par dormir. Donc ce besoin de sommeil est très, très important parce qu'il va s'accumuler dans la journée et le soir, vous vous endormez et hop, dans la nuit, vous l'éliminez. Et si vous ne respectez pas ces horaires de coucher et de lever réguliers ici, le matin et le soir, eh bien, vous avez une dérégulation de ce système et vous allez être en difficulté pour dormir. Alors, à partir de maintenant, on va parler des apnées du sommeil. Donc, ce que je viens de vous dire, vous passez le message autour de vous, c'est l'élément clé pour comprendre ce qu'est le sommeil. Donc, pour enregistrer le sommeil, tout simplement, les courbes que je vous ai fait voir, il faut enregistrer un patient, donc une personne. Donc ici, vous avez une personne qui est installée pour la nuit. Donc, on lui a mis des fils. Vous voyez, sur la tête, ici, sur le menton, au niveau des yeux, parce que c'est des éléments qui sont importants pour classer les stades de sommeil. Il y a différents stades de sommeil, hein, je vous les ai indiqués, le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Donc il faut des indicateurs, ces indicateurs, on les observe, que si on enregistre le patient. Alors, donc on colle ces électrodes, ensuite on va enregistrer les mouvements thoraciques et abdominaux pour avoir la respiration au cours du sommeil. Donc on met des capteurs ici, vous voyez cette sangle, cette ceinture élastique est en fait un capteur qui va permettre de capter les mouvements thoraciques. Ici c'est les mouvements abdominaux, on va avoir ici, on ne le voit pas, mais une petite pince au doigt qui nous donne l'oxymétrie, le taux d'oxygène dans le sang. Et cette personne, enfin pas celle-ci, là c'est une autre, vous voyez, elle est installée pour dormir, donc des capteurs au niveau du menton. Quand vous êtes en sommeil paradoxal, vous ne pouvez plus bouger normalement. Les muscles, il n'y a plus de commande musculaire. Donc vous ne pouvez pas bouger pendant vos rêves. Donc un somnambule qui se déplace, ce n'est pas un épisode de sommeil paradoxal. Le somnambulisme, c'est pendant le sommeil profond, d'accord ? On peut bouger pendant le sommeil profond, on ne peut pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Donc ça nous permet, nous, de différencier les stades de sommeil. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, cette personne va dormir normalement pendant la nuit, malgré tous ses fils. Oui ? Voilà. Ça n'a pas gêné. Non, ça ne gêne pas. Ça retarde parfois un peu l'endormissement parce que la personne, ben, elle est un peu anxieuse. Soit elle est chez elle, puis les fils la gênent. Soit elle est au laboratoire. Parfois, elle dormit au laboratoire parce qu'il n'y a pas le mari qui ronfle, il n'y a pas le chien qui gêne, etc. Il n'y a pas les enfants. Et puis, il n'y a pas le bruit à l'extérieur. Il y a plein de conditions qui font que la personne va mieux dormir au laboratoire. Mais la présence des fils ne va pas gêner. Si ça gêne pendant une demi-heure, une heure et demie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, le taux d'endormissement va augmenter, le besoin d'endormissement, de sommeil augmente, et arrivé minuit, minuit, une heure, la personne s'endort. Mais on n'a pas d'augmentation, enfin, de nuit où les gens ne dorment pas, c'est quasi jamais pendant toute une année, hein. Ça arrive de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Donc ça ne gêne pas pour dormir, ça gêne un peu au début. Et c'est surprenant. Mais c'est la réalité. Et donc, vous voyez, vous allez vous-même voir la différence entre ici un stade de sommeil, vous voyez, léger. Vous voyez, ça c'est l'électroencéphalogramme. Voilà le sommeil léger. Et voilà le sommeil profond. Vous voyez les grandes oscillations du sommeil profond. Donc voilà comment nous, on analyse les stades de sommeil. C'est extrêmement facile. Et ça va nous permettre, quand la personne fait des apnées du sommeil, de savoir si cette personne est en sommeil léger ou en sommeil profond, car les apnées vont empêcher la personne de passer en sommeil profond. Et le sommeil profond est le sommeil le plus réparateur sur le plan physique. Le sommeil paradoxal permet de récupérer, hein, ça c'est une division assez grossière, l'aspect psychologique, tout ce qui est cognitif, le mental. Le sommeil profond, c'est le physique. Donc si vous ne faites pas ou peu de sommeil profond, eh bien, vous aurez une fatigue physique le matin. Vous aurez l'impression de ne pas être parfaitement reposé. Donc quelqu'un qui se lève le matin, après une bonne nuit de sommeil, doit se sentir reposé, frais pour partir pour la journée. Si vous vous levez le matin fatigué, endormi, ce n'est pas normal. Après, il y a tout un tas de raisons. Ce n'est pas forcément des apnées. Peut-être tout simplement, vous n'avez pas assez dormi. Mais parfois, quand on dort 2 ou 3 cycles de sommeil, c'est suffisant pour se sentir reposé. Tout simplement parce qu'on fait les cycles de sommeil profond en début de nuit. Donc, vous acceptez très facilement de dormir peu, 5-6 heures par nuit sur une semaine, parce que vous avez ce sommeil profond qui vous repose. Mais vous faites moins de sommeil paradoxal. Pour l'enfant, ça peut être dramatique, car le sommeil paradoxal, ça intervient dans la mémoire. Donc, il y a un déficit d'apprentissage. Et puis, vous êtes reposé, donc vous dites, c'est pas la peine de dormir plus longtemps. Mais si vous avez besoin de 8 heures et que vous dormez 6 heures, il vous manque 2 heures. À la fin de la semaine, il vous manquera une nuit de sommeil. Vous comptez ça sur 40 ans d'activité, ça fait 50 sommeils en moins. Et les dettes se cumulent. Vous ne pouvez pas récupérer une dette de sommeil comme ça en 5 minutes, si elle est chronique. Donc, vous voyez, c'est très important de comprendre si on a besoin de 8 heures, de 6 heures ou de 10 heures de sommeil. Donc avec l'apprentissage, vous voyez que les stades de sommeil sont faciles à identifier, mais ça c'est de la technique. Et puis, vous ne respirez pas de la même façon en fonction des stades de sommeil. Donc ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la respiration. Et si vous écoutez quelqu'un dormir, hein, si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous savez très bien, vous avez déjà remarqué que sa respiration varie au cours de la nuit. Parfois elle a une respiration ample et très régulière, et parfois la respiration devient très irrégulière, elle devient ample, et puis d'un seul coup elle est rapide et moins ample. Et vous voyez ici, ça c'est la respiration. Donc là, le sujet inspire, expire, inspire, expire. Vous voyez, c'est très très régulier. Et ça s'entend très facilement, une respiration très régulière. Parfois, il y a des ronflements associés et ils deviennent très réguliers, très forts. Mais c'est une régularité de métronome. Et bien ça signe la présence de sommeil profond. Le sujet ici est en respiration très très régulière et tout ce qui se passe pendant le sommeil profond est très régulier. Le battement cardiaque est régulier, la pression artérielle est très stable. Tout se passe de manière très stable. Et là, vous récupérez parfaitement. Et voilà la différence avec le sommeil paradoxal. Et vous voyez que là, la respiration, tout ça c'est la respiration, eh bien, devient beaucoup plus irrégulière et parfois il y a des arrêts respiratoires pendant le sommeil paradoxal. Et cet arrêt respiratoire, c'est une apnée. C'est la définition de l'apnée, c'est l'arrêt de la respiration. Donc on peut avoir, même chez un sujet normal, des apnées au cours du sommeil, mais pas en quantité importante. Et ces apnées ont des types particuliers. Là, le cœur va être très irrégulier, le taux d'oxygène dans le sang va varier aussi. Donc vous voyez cette différence-là aussi, on va l'apprécier avec les enregistrements. Donc ensuite, on va quantifier les données pour savoir le taux d'apnée pendant le sommeil. Alors c'est quoi les apnées? Donc on va essayer de donner ça de manière assez simple. D'abord, qu'est-ce qui se passe au fond de la bouche? Qu'est-ce qu'il y a au fond de la bouche? Bon, vous voyez ici une personne de profil, on lui a coupé la tête dans le sens longitudinal. Vous voyez la langue ici? Ça, c'est la pointe de la langue, c'est ce que vous voyez. Le palais, il y a un palais dur et un palais mou derrière, le voile du palais ici et l'aluette qui est là. Et voyez la langue ici, le bord postérieur de la langue, ça s'appelle la base de la langue. Et là, la personne, et là, c'est le nez et les voies aériennes. Et ça s'appelle, toute cette région, les voies aériennes supérieures. Donc les médecins, quand ils vous parlent des voies aériennes supérieures, c'est le nez et toute cette région-là. Et puis ça va aller à la trachée, ensuite derrière. Et vous voyez, vue de face, vous pouvez vous regarder dans la glace, vous l'avez déjà fait, vous voyez les dents, donc les arcades dentaires, en haut, en bas, la langue et l'aluette. Et parfois ça, quand vous regardez dans la glace, eh bien, vous ne voyez pas l'espace qui est là. Vous voyez, là, ça, c'est l'espace où l'air passe. Ça doit pouvoir passer facilement. Et même éveillé, on a des personnes où c'est le palais, le voile du palais, ici, ça, c'est le voile du palais, c'est une région molle. Hein. Si vous touchez le voile du palais avec le doigt ou avec un coton-tige, ça vous donne un réflexe nauséeux. Vous avez envie de vomir. Eh bien, souvent, chez les sujets apnéiques, on peut aller toucher au fond, ça, le réflexe nauséeux diminue. Donc, il y a une diminution de la sensibilité dite pharyngée. Tout ça. Alors chez le ronfleur, c'est ça qui va vibrer. Donc ça, c'est normal, mais parfois ça s'abaisse et l'aluette peut toucher la langue et s'allonger. Tout simplement parce que quand on a des apnées, on va tirer très fort pour respirer. Donc ça, c'est normal. Le ronflement, c'est souvent une pathologie, entre guillemets, de début. Donc quand on est jeune et qu'on prend un petit peu du poids, eh bien, les tissus que je vous ai montrés, les tissus du voile du palais, deviennent un peu plus mous. Au début, c'est très rigide et ça sera molli. On grossit un petit peu en vieillissant, c'est physiologique. On va prendre quelques kilos et la respiration ne va plus se faire de manière laminaire au niveau du nez. On va avoir des turbulences. Et ces turbulences, vous voyez, l'air passe ici, passe derrière. Et là, voilà la partie osseuse et là, le voile du palais, l'aluette ici. La langue, l'air passe par la bouche ou par le nez. Normalement, la nuit, on respire la bouche fermée. Il y a un réflexe de fermeture de la bouche. En ce moment, vous avez la bouche fermée. Vous en rendez pas compte, mais c'est un réflexe qui vous ferme en permanence la bouche. Et quand vous voulez parler, vous ouvrez la bouche. Mais ça, c'est un autre système. Donc là, vous voyez l'air qui passe. Et cette partie-là, avec la base de la langue, ça peut vibrer. Vous voyez, et si ça vibre, eh bien, ça fait un ronflement. Et ce ronflement, très souvent, c'est le début d'un événement qui va, au fur et à mesure des années, évoluer, pas obligatoirement, évoluer vers des apnées. Tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques. Il y a, à 60 ans, 60% de ronfleurs et 15% d'apnéiques. Donc, heureusement, si vous ronflez, vous n'êtes pas forcément apnéique. Mais la personne qui est à côté de vous entend vos ronflements et elle peut entendre vos arrêts respiratoires. Et c'est très souvent le conjoint qui va signaler que la personne fait des apnées. Alors, vous avez vu, on peut en faire une ou deux, donc pas trop d'inquiétude au cours de la nuit. Donc, le ronflement, c'est la vibration de l'air au niveau du voile du palais. C'est le voile du palais qui va vibrer. Et vous voyez la base de la langue ici, eh bien, commence déjà à grossir un petit peu. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous vous couchez? C'est là le problème. Donc là, vous imaginez la personne couchée. Donc, vous avez ici la bouche, vous voyez, les incisives ici, le palais osseux en noir ici, il n'y a pas de couleur. Et puis là, la langue, vous voyez, tout ça, c'est la langue. Et puis, la base de la langue qui est là, et l'air devrait passer ici. Vous voyez le petit point vert ou pas, oui? Alors ici, vous voyez. Donc voilà, la base de la langue, ça, c'est la langue. Et quand vous respirez par le nez, l'air passe par ici, mais pas par la bouche, puisque vous avez la bouche fermée de manière réflexe. Et quand vous vous couchez, la langue tombe en arrière, de manière normale, physiologique. Mais vous avez une tension des muscles pharyngés et de la langue qui fait qu'à chaque mouvement inspiratoire, quand vous inspirez, si vous êtes couché, malgré la chute de la base de la langue en arrière, vous voyez, ça va toucher ici la paroi pharyngée, et bien normalement, cette langue ne touche pas, elle devrait être là. Parce qu'il y a une tension à chaque mouvement inspiratoire. Mais chez certaines personnes, eh bien, la base de la langue va toucher l'arrière de la paroi, du pharynx, la paroi postérieure du pharynx ici. Ça va se fermer et l'air qui devrait passer par le nez et rejoindre la trachée, eh bien, ne peut pas. Et là, vous êtes en difficulté. L'air s'arrête ici et là, vous avez envie de respirer tout simplement parce que l'air que vous respirez amène de l'oxygène dans le sang. Et si vous manquez d'oxygène, eh bien, vous êtes en difficulté, vous êtes en hypoxie et l'oxygène qui vous manque va amener à augmenter vos efforts respiratoires pour faire rentrer de l'air. Mais c'est bouché. Alors pour vous faire comprendre, c'est simple, imaginez une chambre à air, une pompe à vélo et vous gonflez la chambre à air, l'air rentre. Si vous tirez le piston, vous aspirez de chaque côté la chambre à air. D'accord ? Donc là, un système pour la pompe, c'est que l'air vient toujours de l'extérieur. Donc, si vous tirez le piston, les deux parois de la chambre à air vont se rapprocher. Il y a une pression négative à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous respirez ici ? Le diaphragme se contracte et vous avez une pression négative dans le thorax. Cette pression négative dans le thorax fait rentrer l'air au moment de l'inspiration dans les poumons. Si, quand vous êtes couché, la base de la langue touche la paroi pharyngée, l'air, la pression négative, votre diaphragme se contracte, la pression négative existe, mais l'air est bloqué au niveau de la langue. Mais vous avez une pression négative dans le poumon, l'air ne peut pas passer. Que fait l'organisme ? Que fait le cerveau ? Il veut respirer, il veut voir de l'air rentrer, donc il augmente l'effort respiratoire. Le diaphragme va se contracter un petit peu plus. Et donc la pression négative dans le thorax va être un peu plus élevée, si le muscle se contracte un petit peu plus. Cette pression négative plus élevée dans le thorax va faire que ça se ferme de plus en plus. Les parois pharyngées vont se rapprocher et se fermer de plus en plus du fait de cette pression négative dans le thorax. Parce que le diaphragme fait un effort de plus en plus marqué. Et l'air ne peut toujours pas passer. Et la fermeture va s'accentuer au lieu de s'ouvrir. Il y a un cercle vicieux. Donc au lieu de s'ouvrir, ça se ferme de plus en plus. Donc cette base de langue, qui normalement devrait être ici, elle bloque le passage. Et la personne qui fait cet arrêt respiratoire veut respirer. Elle fait des efforts respiratoires de plus en plus importants. Elle contracte son diaphragme, elle contracte ses muscles inspiratoires au niveau du thorax et ça crée une pression négative de plus en plus importante dans le thorax et ça ferme de plus en plus les voies aériennes ici qui sont des parties molles, c'est du muscle. Et ça se rapproche et vous ne pouvez plus vous en sortir. L'apnée se prolonge et les efforts augmentent. Et vous avez des apnées qui vont durer 10 secondes, c'est le minimum pour considérer qu'on a une apnée pathologique, 10 secondes. 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, 1 minute et demie, 2 minutes, 2 minutes et demie. Donc il y a des gens qui peuvent s'arrêter, qui respirent juste, qui ont des efforts respiratoires, mais l'air est bloqué pendant 2 minutes parfois. La moyenne de durée d'une apnée, c'est 30 secondes. 30 secondes, vous pouvez essayer de vous arrêter de respirer, on va le faire, oui. Ah ben voilà, c'est très très bonne question. C'est que ça va finir par le réveiller et c'est le seul moyen qu'a trouvé l'organisme pour sortir de cette impasse. La personne fait des efforts respiratoires, l'air ne peut pas rentrer. Et bien le seul moyen qu'a trouvé le cerveau, c'est de dire au bout d'un moment, et bien on va arrêter le sommeil de cette personne et on va le réveiller. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous étiez en sommeil léger. Du sommeil léger, vous passez en sommeil profond. Et bien là, vous êtes resté en sommeil léger et si vous faites des apnées extrêmement fréquentes, vous allez vous réveiller en permanence. Et quand vous vous réveillez, vous ne faites pas d'apnée, vous respirez normalement. Il y a la tension des muscles se remet en place et l'air passe de nouveau. Donc il y a deux types d'apnées en fait. Ce que je viens de vous expliquer, c'est des apnées obstructives. Donc le caractère obstructif des voies aériennes supérieures. Donc là, vous voyez, l'air passe en bleu. Ça, c'est normal. La langue... La base de la langue, l'arrière de la langue, ne touche pas la paroi postérieure du pharynx, ici. Donc ça passe bien, ça c'est normal. Et puis ici, ça se bloque. Vous voyez, la base de la langue vient tomber en arrière. Alors il y a tout un tas de raisons, mais une raison qui aggrave ce processus, c'est la prise de poids, le surpoids. Pourquoi ? Parce que de la graisse s'accumule au niveau de la base de la langue. Donc même si vous n'avez pas 30 kilos de surpoids, la base de la langue, ici, c'est un élément où la graisse s'accumule très facilement. Donc l'espace que vous avez ici, si vous accumulez de la graisse ici, devient de plus en plus petit. Et quand vous vous couchez, ça se bouge tout de suite. Donc une personne qui prend du poids en vieillissant, quelques kilos, avec des tissus un peu plus mous, au niveau du pharynx et du voile du palais, eh bien la langue a tendance à s'arrêter, à tomber très facilement. Donc la personne d'abord ronfle, et puis quelques années après... Elle prend un petit peu de poids, quelques kilos, et là, ça se bouge complètement. Mais elle ne s'en rend pas compte parce que la personne dort, non pas en sommeil profond, mais en sommeil léger. Mais elle dort. Donc, elle ne s'en rend pas compte. Et le sommeil devient très perturbé, parfois, si les apnées sont très fréquentes. Donc le seul moyen pour sortir de cette impasse-là, c'est de se réveiller et de passer en sommeil léger. Un autre type d'apnée, on va évoquer nous aujourd'hui que les apnées obstructives, mais c'est les apnées centrales. Donc là, ce n'est pas l'obstruction des voies aériennes qui arrête le passage de l'air, c'est simplement la commande au niveau du cerveau qui s'arrête. Le cerveau ne commande plus la respiration. Donc les mouvements s'arrêtent, tout s'arrête. Donc l'air ne peut plus rentrer. S'il n'y a plus de contraction du diaphragme, l'air ne peut plus rentrer. Donc ces apnées de type central, donc par défaut de commande ventilatoire, sont plus souvent rencontrées chez les insuffisants cardiaques, pour des raisons compliquées que je ne vous explique pas, mais pour des problèmes de régulation de la ventilation, ces apnées centrales sont fréquemment retrouvées chez les insuffisants cardiaques et sont beaucoup plus difficiles à traiter que les apnées obstructives. Donc on va parler de celles-ci. Je vous montrerai les deux. Donc là, vous avez un enregistrement qu'on fait en laboratoire, donc toujours avec l'électroencéphalogramme. Et ici, vous avez environ 4 minutes de tracé d'enregistrement sur la base de temps. Donc vous voyez ici la respiration de la personne, ici. Entre là et là, vous avez 10 secondes entre deux traits verts. La personne respire et là, ça s'arrête. Et vous voyez, ça reprend ici. Donc vous avez 10, 20, 30, 40 secondes d'arrêt respiratoire. Ça, c'est l'apnée du sommeil. Et vous voyez que pendant ce temps-là, ici, quand la personne respire, on a des grands mouvements ici, thoraciques et abdominaux, qui vont diminuer, mais qui vont ici reprendre et qui sont présents. Et les efforts respiratoires persistent, vous les voyez ici, alors que là, donc la personne fait ses efforts respiratoires, mais elle ne respire pas. L'air ne passe pas. Donc elle est en grande difficulté. Et au moment où la personne respire, vous voyez qu'ici, ça c'est l'activité musculaire enregistrée au niveau du menton. Vous voyez qu'on a cette activité musculaire qui reprend, ça traduit ce qu'on appelle le micro-éveil. Il y a un éveil qui va durer entre 3 et 15 secondes, très bref, ça s'appelle un micro-éveil, absolument pas perçu par la personne qui fait ses apnées. Mais ce micro-éveil, vous voyez, se répète à chaque fin d'apnée et c'est ce qui permet à la personne de respirer, de reprendre sa respiration. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, simplement, la personne fait son arrêt respiratoire. Vous voyez qu'en rouge ici, la fréquence cardiaque change. On peut avoir des troubles du rythme cardiaque. Et on va observer aussi une diminution du taux d'oxygène. Si vous ne respirez pas, l'oxygène ne rentre pas. Et donc, le taux d'oxygène dans le sang va diminuer. Ça s'appelle une hypoxie. Et progressivement, le taux d'oxygène va diminuer. Je vais vous montrer. Et au moment où vous allez vous réveillez, tout ça se remet en place, vous respirez, l'oxygène revient dans le sang et l'hypoxie disparaît, le taux d'oxygène redevient normal. Et vous voyez la répétition de ces événements. Ici, vous avez 4 minutes, vous avez un toutes les minutes à peu près. Et pour cette personne, ça va durer toute la nuit. Autrement dit, cette personne passe plus de temps à ne pas respirer qu'à respirer au cours de la nuit. Et elle ne va pas faire de sommeil profond récupérateur. Pour vous juste vous montrer la différence, vous voyez les apnées centrales. Eh bien là, la personne respire. Là, elle ne respire pas. Les mouvements thoraciques sont présents, les mouvements abdominaux sont présents. Mais vous voyez qu'au mouvement de l'apnée centrale, tout s'arrête. Donc ça, et ça devient extrêmement périodique, ça nous évoque un problème d'insuffisance cardiaque. Alors voilà ce qui se passe pour le taux d'oxygène la nuit. Alors ici, vous avez une courbe qui vous montre l'enregistrement du taux d'oxygène au doigt. Donc on a un capteur au doigt pendant toute la nuit de 0 à 6 heures du matin. Enfin, de 23 heures à 6 heures du matin. Et vous voyez ces petits traits ici. Vous pouvez les deviner. Là, 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 là. Chaque petit trait, vous avez. Alors ils sont extrêmement fréquents et donc ça se touche. Vous voyez une masse noire. Mais chaque petit trait correspond à une apnée au cours de la nuit. Donc cette personne a dû faire 200, 300 ou 400 apnées au cours de la nuit. Et vous avez ici le taux d'oxygène dans le sang. Là, c'est 50% et là, c'est 100%. La valeur normale, c'est à peu près 96, 97%. Et normalement, vous avez ça toute la nuit. Il n'y a pas de raison de changer. Vous voyez que cette personne va atteindre des taux à 50% d'oxygène dans le sang. Alors, c'est la saturation de l'hémoglobine. Donc ça, c'est une courbe qui traduit une gravité extrême en termes de syndrome d'apnée du sommeil. Alors on compte les apnées au cours de la nuit, et si la personne fait plus de 5 apnées par heure, on considère que ce n'est pas normal. Alors l'apnée, c'est ce que je vous ai montré, mais il existe aussi des hypopnées, c'est-à-dire une simple réduction de la ventilation, la personne respire, mais de manière moins importante. Alors ça, c'est extrêmement grave. Ça a été enregistré de très très nombreuses fois. On a des patients comme ça, très très sévères, comme celui que je viens de vous montrer, fréquemment en laboratoire, mais tout n'est pas aussi dramatique. Parfois, c'est quelques apnées, 5, 10, 15 par heure. On a donc une classification. On va dire qu'un syndrome d'apnée est sévère si on fait plus de 30 apnées par heure de sommeil. Donc 30 arrêts respiratoires par heure. Donc ça fait un toutes les deux minutes. Ça va être modéré entre 15 et 30 et minime entre 5 et 15. Donc on classe. Et il y a une prise en charge sans problème à partir des syndromes d'apnée sévère. Mais on va avoir ici des différences en fonction de la clinique. Et donc ça, c'est une difficulté qu'a parfois le praticien pour la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil. Le diagnostic est assez facile. Il suffit de faire un enregistrement au cours de la nuit. On est obligé de faire cet enregistrement pour faire le diagnostic. Parfois, la clinique nous permet de faire le diagnostic, mais on n'a jamais la certitude. On peut se tromper, car le symptôme le plus fréquent, c'est la somnolence dans la journée. Je vais vous présenter les symptômes après. Alors, est-ce que c'est fréquent ? Mais vous voyez la prévalence, c'est-à-dire le taux, en quelque sorte, dans la population adulte. Vous l'avez ici, entre 5 et 15% de la population adulte. Donc, c'est extrêmement fréquent. Et vous avez ici l'évolution en fonction de l'âge. Vous voyez qu'à 35-40 ans, c'est plutôt 6% de la population. Et au fur et à mesure du vieillissement, on augmente la fréquence du syndrome d'apnée du sommeil. Donc une personne qui a 50 ans, eh bien là, vous voyez, 15 personnes sur 100 vont pouvoir avoir ce syndrome-là. Ça veut dire que le médecin généraliste est très fréquemment confronté à ce problème. Et en consultant 20 patients par jour, un médecin généraliste devrait avoir environ 6 patients apnéiques modérés à sévères par semaine. 20 patients par jour, pour un médecin généraliste, ce n'est pas beaucoup. Hein. Parfois, c'est 30, 40. Vous voyez, 6 patients modérés à sévères par semaine. Il y a des médecins généralistes, maintenant ça commence à être un peu plus médiatisé, et donc le syndrome commence à être plus connu, mais qui ont un ou deux patients dans leur clientèle ou patientèle. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de dépistage à faire et d'enregistrement. Alors en fonction des pathologies, on va avoir une fréquence de ce syndrome d'apnée du sommeil différente. Tout simplement parce que le syndrome d'apnée du sommeil, obstructif du sommeil, eh bien, est un élément qui va compliquer. Il y a des complications et on retrouvera très fréquemment ce syndrome d'apnée du sommeil dans certaines pathologies et les gens ne sont pas toujours avertis de ça. Par exemple, l'hypertension artérielle. Alors, si vous avez de l'hypertension artérielle, le médecin vous traite, mais il ne va pas penser à vous demander souvent la question. Il prend l'attention, il voit que vous avez de l'hypertension. Mais il ne vous posera pas la question, est-ce que vous ronflez, est-ce que vous êtes somnolent et quel est votre poids? Le poids, il connaît souvent, mais pas forcément précisément. Mais si vous avez 10-15 kilos en surpoids, si vous êtes ronfleur et somnolent, eh bien, il y a de fortes chances, si vous êtes hypertendu, il y a de fortes chances pour que vous ayez des apnées du sommeil. Alors, l'hypertension artérielle réfractaire, c'est cette hypertension qu'on traite, mais qui est difficile à traiter, et malgré les traitements, on n'arrive pas à la corriger. Eh bien, quand on contrôle chez ces patients-là, alors c'est fréquent, hein, les cardiologues voient ça fréquemment, quand on contrôle chez ces patients qui ont une hypertension artérielle réfractaire la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil, on le retrouve dans 80% des cas. Donc la première chose à faire, si vous connaissez des gens avec une hypertension artérielle mal contrôlée ou dite réfractaire, eh bien, c'est d'aller l'adresser à un centre d'enregistrement du sommeil, les pneumologues libéraux ou à l'hôpital. Hein, c'est très facile à enregistrer. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire le diagnostic. Vous voyez que dans les insuffisances cardiaques, une personne sur deux présente un syndrome d'apnée du sommeil. Là, c'est souvent de type central, mais ce n'est pas forcément de type central. On peut avoir des apnées obstructives. L'hypertension artérielle, je vous l'ai dit. Là, c'est l'hypertension artérielle en général, pas bien traitée, bien contrôlée. C'est 35% des cas. Et puis, il y a les accidents vasculaires. Le diabète, ici, vous voyez, les gens diabétiques, eh bien, sont fréquemment. L'obésité morbide, ça veut dire un fort surpoids au-dessus de 35% d'indice de masse corporelle. Alors, quels sont les signes? Voilà, la nuit, eh bien, un signe important, c'est le ronflement, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, tous les ronfleurs, attention, tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques, mais le ronfleur a un avantage. Alors, le ronflement existe pratiquement dans toutes les dans tous les syndromes d'apnée du sommeil, hein, dans 99,89% des cas. Donc le ronflement, et puis ça s'entend quand ça s'arrête, parce que le ronflement s'arrête pendant 10, 20, 30, 40 secondes, et la reprise de la respiration est bruyante. Alors si vous connaissez des gens qui s'arrêtent de respirer, parfois on n'entend pas l'arrêt, mais on entend la reprise. Donc, ça s'arrête. Longtemps. Parfois très longtemps. Un coup de coude parce qu'on s'inquiète. Et voilà. Ça, c'est la personne qui est comme ça et sévère. Parfois, ça dépend de la position. Ça survient préférentiellement, surtout quand on est jeune, sur le dos. C'est pas obligatoire, mais parfois ça ne survient que sur le dos. Donc les lasers respiratoires sont perçus par l'entourage, pas toujours, parce que l'entourage, pour l'entendre, faut que la personne à côté soit réveillée, sont aussi perçus par la personne elle-même. Elle se réveille avec l'impression d'étouffer. Et ça la surprend, surtout le matin. Des éveils nocturnes fréquents. Pourquoi ? Parce que quand l'apnée dure une minute, la personne, c'est plus un micro-éveil qu'elle a, c'est carrément un éveil. Et puis c'est une agitation. Alors vous pouvez imaginer que la personne qui fait une apnée toutes les minutes, elle s'agite, elle se tourne, elle bouge beaucoup. Et donc la personne qui est à côté, le conjoint, s'il y a une compagne, elle dit « Pourquoi tu bouges autant la nuit ? T'arrêtes pas de bouger la nuit. » Les besoins d'aller uriner fréquemment. Ça, c'est un signe très fort. D'aller uriner la nuit, c'est pas normal. Normalement, le besoin d'uriner disparaît la nuit. Il reprend le matin. L'organisme tolère la distension vésicale. Mais là, il y a un besoin d'uriner qui peut réveiller le patient. Alors, il est réveillé, parfois il va uriner, mais il est réveillé 2-3 fois pour aller uriner. Donc, parfois, on observe des gens qui sont opérés pour la prostate et qui vont uriner la nuit, parce qu'effectivement, ils avaient parfois une petite prostate, enfin une prostate un peu grosse, mais malgré l'intervention, conservent la capacité ou le fait d'uriner 2, 3 fois, 4 fois par nuit. Tout simplement, c'est parce qu'ils ont des apnées du sommeil. Donc si une personne vous dit « Moi, je me lève 2, 3 fois la nuit pour uriner », il faut penser à lui dire « Est-ce que tu ronfles ? Est-ce que tu as du surpoids ?» Alors, le surpoids n'est pas obligatoire pour avoir des apnées du sommeil. Hein. Ça dépend aussi de la configuration du massif facial. Alors, le sommeil est très, très perturbé, fragmenté, agité. La personne peut transpirer beaucoup. Oups. Pardon. Donc on a des gens qui transpirent, qui vont saliver aussi beaucoup avec le matin, parce qu'ils vont se mettre à respirer par la bouche. Une dette chronique de sommeil profond, il y a une altération du sommeil profond. Les apnées ne surviennent pas pendant le sommeil profond, mais le fait de les avoir pendant le sommeil léger, ça empêche de passer en sommeil profond. L'efficacité du sommeil est réduite parce qu'on n'a pas le sommeil profond. Le sommeil léger est augmenté et c'est un sommeil non réparateur. Et pendant le sommeil profond, vous avez une régulation du système cardiovasculaire, en particulier de la tension artérielle. Et ça ne se passe pas. Ce qui explique que la personne va faire de l'hypertension, car à chaque apnée, vous avez un ralentissement du rythme cardiaque et ensuite une accélération à la fin de l'apnée. Et vous avez aussi une augmentation de la pression artérielle de 1 à 2, voire 3 points. Et pendant la nuit, la personne est hypertendue. Elle n'a pas une diminution de la pression artérielle qui normalement doit exister. Et donc cette non-diminution de la pression artérielle la nuit, si ça se produit de manière chronique, toutes les nuits pendant 5-10 ans, la personne devient hypertendue. Alors, un signe majeur, c'est la somnolence ou la sensation de fatigue dans la journée. Ça, c'est vraiment un critère très fort. Et donc, la personne ne s'en rend pas toujours compte parce que ça survient très progressivement. Donc, elle se plaint de s'endormir ou pas. C'est l'entourage qui le voit. La personne lit son journal. Donc, on a des questionnaires pour valider. Alors, la personne ne s'en rend pas compte. Elle lit, elle s'endort. Et puis, la personne, mais tu dors. Mais non, je ne dormais pas. Quand vous vous endormez brutalement, on peut vous réveiller. Vous n'avez pas eu l'impression de dormir. Alors, si vous avez des personnes qui sont somnolentes et qui s'endorment dans la journée sans raison, une des premières causes, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Enfin, la première cause réellement, c'est la dette de sommeil, le manque de sommeil. Et ensuite, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, si une personne a ce profil-là, elle s'endort tout le temps, il faut l'enregistrer. Elle a toutes les chances d'être apnéique. Alors, les autres signes, c'est le jour. Hein, se lever, alors ça, c'est la nuit. Les maux de tête le matin. Donc les gens se lèvent avec des maux de tête. Ce n'est pas normal d'avoir des maux de tête le matin. les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention. Donc la personne, c'est pas des troubles importants, c'est très subtil. Et la personne dit, ben moi c'est normal, j'ai 50 ans, 60 ans, je vieillis, j'ai des petits troubles de mémoire. Non, les troubles de l'attention, vous n'arrivez plus à lire votre livre, vous n'arrivez plus à faire vos activités. Il y a des gens qui sont passionnés de foot et qui vont plus s'intéresser au foot. Donc il y a un désintérêt des choses aussi. Il y a une sorte d'isolement. La personne se désintéresse de ce qu'il passionnait. Parfois, ça peut conduire à la dépression, hein, troubles de l'humeur, dépression, des troubles de la libido aussi. Et la surcharge pondérale, le surpoids, est souvent présent, mais pas toujours. On a des personnes qu'on enregistre qui font 1m70, 1m80, 1m90. 1m90 et 80 kg, ce n'est pas du surpoids, c'est normal. Mais ils peuvent être apniques. Parce qu'on a des anomalies maxillofaciales. Alors les complications, je vous ai donné pour les principales, l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. On retrouve le syndrome d'apnée obstructive du sommeil dans 35% des cas aussi. Les troubles du rythme cardiaque, c'est très fréquent. Donc les gens ont des troubles du rythme cardiaque, sont traités par des bêta-bloqueurs. Et on n'a jamais posé la question, est-ce que vous ronflez? Est-ce que vous êtes somnolent dans la journée? Donc il faut poser ces questions, le médecin doit les poser, mais il ne les pose pas. Et donc il est 5-10 ans traité alors qu'il a des apnées du sommeil. L'infarctus et l'accident de la voie publique. Alors vous savez que l'accident de la route, sur autoroute, la cause la plus fréquente, c'est l'endormissement au volant. Mais sur route aussi. Et la cause de cet endormissement au volant, eh bien, c'est la cause de somnolence, et en particulier le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, est-ce qu'il y a des traitements ? Eh oui, il y a des traitements. Et ces traitements sont efficaces sur tout, pratiquement tous les signes que je vous ai mentionnés, et sont efficaces aussi sur les complications. Alors, une fois constituée, la complication, elle reste. Si vous êtes hypertendu, vous garderez votre hypertension. On ne revient pas en arrière. Mais ça peut éviter de passer à une complication si vous ne l'avez pas. Hein ? Alors, on a ces traitements. Ce traitement existe depuis... Le traitement le plus efficace, c'est ce que vous avez devant le nez, ici. C'est cette petite machine hein, qui, ici, fait une taille, vous voyez, de 15 par 15, à peu près, qui est petite. Avant, c'était la taille de la table, dans les années 80. Ça s'est fortement réduit. Et le principe de cette machine, c'est de souffler de l'air. C'est donc un générateur d'air, hein, ça souffle, c'est un petit aspirateur qui marche à l'envers, ça souffle de l'air, ça fait plus de bruit du tout, l'air passe dans ce tuyau et va envoyer de l'air dans le nez du patient. C'est de l'air, c'est pas de l'oxygène, donc l'air est pris dans la pièce et va dans le nez du patient. Donc il n'y a pas besoin d'oxygène, parfois on rajoute de l'oxygène chez des gens qui sont insuffisants respiratoires, mais il n'y a pas d'oxygène, c'est de l'air de la pièce. Donc quel est le principe de fonctionnement de cette machine ? Eh bien tout simplement, l'air qui arrive par la petite machine ça va souffler ici dans les voies aériennes et l'air va créer une pression positive, donc va écarter les voies aériennes et empêcher la langue de tomber en arrière. Ça pousse la langue. C'est comme s'il y a quelque chose qui poussait. C'est l'air qui pousse. Si vous soufflez dans un ballon, les parois se gonflent, elles s'écartent. Et là, c'est exactement ça. On parle d'attelle pneumatique. Donc ici, on n'est plus en pression négative. Quand vous inspirez par le diaphragme, la pression négative qui est là fait rentrer de l'air. Mais comme la langue est plaquée contre le pharynx, ça ne marche pas, le système ne marche pas. Là, vous faites rentrer de l'air, donc la pression est positive et la langue va être repoussée en avant et vous ne faites plus d'apnée pendant votre sommeil et pendant l'endormissement, car les apnées vont apparaître dès que vous vous endormez, pour les cas les plus graves. Donc cette pression positive continue, ou PPC, vous voyez, pression positive continue, eh bien ça a été une révolution dans le traitement des apnées du sommeil, et maintenant c'est utilisé pour d'autres pathologies. Ça a été découvert en 1979-1980 par un Australien. Le syndrome lui-même a été découvert par un Français en 1965. Enfin, la présence d'apnée au cours de la nuit. Et le syndrome, la pathologie complète, le fait que ça entraîne la somnolence, ça entraîne des complications, ça a été découvert par un Français aussi, immigré aux États-Unis en 1970, qui s'appelle Christian Guillemineau. Il est toujours vivant, bien sûr, il a 72 ans à peu près. Et l'inventeur de cette pression positive continue, eh bien, c'est un Australien qui s'appelle Sullivan. Et la première machine qu'il a utilisée, c'est un aspirateur. Son raisonnement a été le suivant. Il y a une pression négative qui bloque, qui amène les parois à se plaquer l'une contre l'autre. Ça attire la langue. Eh bien, si on pousse avec une pression positive, comment aller pousser la langue vers l'avant ? C'est pas facile. C'est la base de la langue. Alors, on a d'autres techniques. Et il a imaginé de mettre une pression positive assez forte qui ramène. Comment faire une pression positive? Eh bien, cette personne a imaginé, parce qu'il a vu sa femme tout simplement aspirer la pièce, il s'est dit, mais ça aspire, mais derrière, ça pousse. Dans un aspi... Donc, il a démonté l'aspirateur de sa femme, il a pris la machine avec des ingénieurs, ils ont réfléchi, évidemment, ça ne s'est pas fait aussi simplement. Mais c'est bien l'aspirateur de sa femme qui a été pris, la première machine. Moi, je l'ai vu, je suis allé voir. C'est impressionnant, c'est une machine, c'est un aspirateur de cette taille-là, enfin juste le moteur. Et donc il a réglé et il a fait ça sur un patient qu'il connaissait. Et le premier patient, dès la première nuit, il était très sévère, dès la première nuit, mais il lui a dit, c'est génial d'un appareil, je suis reposé, mais vraiment comme j'ai jamais dormi depuis très très longtemps. Alors ça, c'est parfaitement efficace. Et ce que je viens de vous dire, c'est l'histoire que nous racontent les gens à la fin d'une nuit, quand les syndromes d'apnée sont très sévères, où les gens sont très somnolents, ont des complications déjà importantes. Donc là, c'est la somnolence qui va être souvent un critère. Si les gens sont très somnolents, ils vont se sentir très bien le lendemain matin. Mais souvent, et le plus souvent, il va falloir s'adapter à cette machine. Ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc il faut dire à ces gens, à ces personnes, qui sont sévères ou pas, que cette machine-là est très efficace, mais qu'il y a une adaptation à cette machine. Mais très souvent, on a parfois les gens veulent partir avec la machine dès le lendemain matin. Donc comment c'est pris en charge? Donc si vous avez un syndrome à plus de 30 apnées par heure, c'est pris en charge complètement. Il y a des prestataires de services après prescription du médecin qui vont venir vous livrer la machine à domicile. Maintenant, ces machines se règlent automatiquement. Elles détectent la présence d'apnée du sommeil. Et quand l'apnée arrive, toc, elles augmentent la pression. Alors la pression, on la règle toujours à un bas niveau. Il y a toujours une petite pression positive en permanence. On la sent presque pas au niveau du nez. Et donc ça permet de s'endormir. Et puis cette pression augmente au fur et à mesure de la nuit et va s'adapter aux besoins du patient. Alors la pression peut rester fixe ou s'adapter aux besoins du patient. S'il fait des apnées uniquement sur le dos, eh bien voilà, l'appareil va marcher principalement quand il est sur le dos. Alors au début, les appareils étaient très bruyants et là, vous l'entendez pas là. Un soufflerie, ouais, ça c'est un avantage. Mais il ne marche pas non plus. Je ne l'ai pas branché. Mais je vais le brancher. Alors, ce qui souvent, vous voyez, il y a un masque. Donc, le masque est adapté à la personne. Donc, les prestataires mettent le masque en fonction de la taille du nez, etc. Et ce qu'on entend, c'est qu'il y a une petite fuite au masque. Parce que quand vous expirez, ben, vous rejetez du CO2. Donc, il faut que ce CO2 puisse partir. Et là, vous voyez, la machine marche, hein. Un petit jet d'air, comme ça. Et quand on respire, c'est un peu plus périodique. Hein. Alors là, c'est un peu plus marqué parce que c'est un mannequin. Mais c'est fabuleux parce que ça fait disparaître les ronflements. Vous ne ronflez plus. Si vous enlevez la machine, les apnées reviennent aussitôt. C'est un traitement symptomatique. Hein. Vous ne guérissez pas. Donc il faut garder la machine. Et maintenant, la prestation. Enfin, il y a une obligation de garder la machine au moins 3 heures par nuit, toutes les nuits, pour que cette machine puisse garder, que vous puissiez garder la machine en permanence. Hein, il y a une restriction là depuis le 1er octobre 2013. Donc il y a une surveillance dite de l'observance. On observe si le patient prend bien son traitement. 3 heures par nuit, c'est largement insuffisant si vous prenez que 3 heures par nuit, parce que pendant les 4 heures restantes, vous allez faire des apnées. Donc la recommandation, c'est de prendre cette machine toutes les nuits, tout le temps, toute la nuit. Ça s'emmène en voyage, il n'y a pas de problème. Donc il y a une éducation thérapeutique. On va éduquer les patients à manipuler, à mettre le harnais ici et à mettre le masque. Il y a différents types de masques. Il y a des masques avec le nez complet. Il y a des masques qui remplissent la bouche et le nez quand les gens respirent par la bouche. Et puis il y a des masques narinaires avec des petits embouts qui rentrent dans le nez. Donc ça, c'est le traitement de référence le plus efficace. Ensuite, vous avez les orthèses d'avancée mandibulaire. Donc, ce sont des petites pièces qu'on met dans la bouche. Et puis, les orthèses positionnelles. Alors, ça, vous en avez une ici. C'est un système tout simple. Ça, c'est Rêve en Poche qui le vend, 90 euros. C'est pas cher. Mais ça empêche de passer sur le dos. Et donc, c'est de la prévention. Donc, en termes de prévention, première chose, les règles hygiéno-diététiques. Ne pas prendre de poids, vous l'avez compris. Alors, c'est pas facile de ne pas prendre de poids. Donc, s'il y a un surpoids, il faut essayer de l'éliminer. Donc, la perte de surpoids, mais c'est pas facile. Parfois, c'est impossible. Mais il faut essayer, parce qu'on fait pas, on mange pas correctement, la prise alimentaire est pas régulière, on fait pas d'exercice, donc il faut faire de l'exercice physique. Vous voyez ici, dans la journée, pas le soir, car ça empêche de dormir ensuite. Évitez la prise de poids si on n'est pas obèse, si on n'est pas gros. Alors évitez la prise de poids, je vous ai mis nourrisson, enfant, ado, adulte. Il y a des enfants qui font des apnées du sommeil sévères. Ils sont en surpoids, mais souvent la cause la plus fréquente, c'est une augmentation de la taille des amygdales. Donc l'alimentation, le respect des heures de repas, et puis l'hygiène de sommeil, très important, parce que ces apnées vont être plus fréquentes si vous manquez de sommeil. Quand vous manquez de sommeil, si vous avez un repas alcoolisé, ça c'est clair, vous allez avoir plus d'apnées, mais c'est très ponctuel. Mais le manque de sommeil chronique aggrave les apnées. Et le manque de sommeil fait grossir. Donc, et la déstructuration du sommeil liée aux apnées fait grossir aussi. Si vous manquez de sommeil ou si votre sommeil est déstructuré, ça favorise la prise de poids. Donc on a un cercle vicieux, c'est la personne apnéique, c'est que l'apnée déstructure son sommeil, et le fait que le sommeil soit déstructuré, ça le fait grossir. Et la prise de poids va aggraver les apnées. Aggravant ces apnées, ça déstructure encore un petit peu plus son sommeil, qui ça fait grossir un peu plus. Donc il faut rompre ce cercle vicieux. Mais ça, ce n'est pas sur une nuit que ça se passe, c'est sur 5, 10 ans. Et donc la personne, il faut prendre dès le départ, si elle ronfle avec des apnées, surtout si c'est positionnel, c'est-à-dire c'est très léger, il faut d'emblée faire la cure de poids, hein, perdre du poids, ça peut être 3, 4, 5 kilos, pas plus. Quand on a 40 ans, c'est la perte de poids, c'est plus facile qu'à 70 ans quand on fait 100 kilos. Ah, vous voyez le principe de la pression positive, je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, c'est quand on respire, c'est la pression négative, et là, on va de chaque côté repousser la langue pour respirer normalement. Hein, c'est le traitement de référence. Alors ça, c'est pris en charge intégralement quand on a un index d'apnée supérieur à 30. Alors entre 15 et 30, ou entre 5 et 15, on peut prendre le syndrome d'apnée du sommeil en charge, la prise en charge est possible, à condition que la personne soit enregistrée, qu'on enregistre le sommeil de la personne, qu'elle soit somnolente, et que pendant le sommeil, on montre qu'il y a un nombre de micro-éveils très fréquent. Et à ce moment-là, la prise en charge est possible. Donc il y a une prise en charge quasi automatique au-dessus de 30, et entre les deux, il faut faire des enregistrements. Vous voyez un exemple ici de machines. Les machines se réduisent de plus en plus. Vous voyez la machine, ça c'est les premières machines qu'on a eues au laboratoire pour traiter les patients. Ça c'était il y a 15 ans, ça c'était il y a une dizaine d'années. Et puis maintenant vous avez ça, et il y a encore une des machines un petit peu plus petite maintenant. Vous voyez, ça existe chez les enfants. Alors chez les enfants, on peut mettre aussi des machines. Alors parfois on est obligé, vous voyez, il y a deux composants ici, parfois on est obligé de rajouter un humidificateur. Donc c'est un élément à peu près identique à celui-ci sur le côté, ça dépend des fabricants. Mais l'air qui est envoyé dans le nez ici, c'est l'air de la pièce et ça va assécher la muqueuse nasale. Pour certaines personnes, c'est très gênant. Donc on met à côté un humidificateur et l'air qui est envoyé est humide et cette sensation de sécheresse de la muqueuse disparaît. Alors parfois, au début aussi, on peut avoir des petites lésions cutanées qu'il faut traiter, ce n'est pas un gros problème. Vous voyez, on peut avoir des masques différents. Et voilà leur test d'avancée mandibulaire. Alors ça s'adresse au syndrome d'apnée minime à modéré. Les sévères, c'est quand on n'a pas de fonctionnement correct de cette machine ou que la machine n'est pas tolérée par le patient, ça peut arriver. Donc les orthèses d'avancée mandibulaire, ce sont deux petites arcades en plastique enfin, qui vont être positionnées sur les arcades dentaires et qui vont avoir pour fonction, vous voyez ici, il y a une petite biellette ici. Et donc quand on les met, cette biellette va repousser en avant la mâchoire, le maxillaire inférieur ici, ça va le pousser en avant. Et comme la langue s'insère sur la mâchoire, quand on la pousse en avant, l'arrière de la langue va être projeté en avant. Et donc l'air peut passer normalement. Ça, ça fonctionne très bien. C'est plus facile à utiliser. L'inconvénient, parce que vous voyez, c'est moins encombrant. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir des dents de bonne qualité. Ça peut déchausser parfois un peu les dents si les dents ne sont pas de bonne qualité. Donc, il faut avoir un examen dentaire. Il y a une mise en bouche à faire. Hein, donc, les dentistes sont formés pour ça ou les stomatos. Mais aussi, on peut avoir un problème au niveau de l'articulation temporomandibulaire ici, puisque la mâchoire est projetée en avant et ici, l'articulation, eh bien, elle force. Donc, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois, on a des difficultés, on a des douleurs ici. Mais c'est quelque chose qui marche bien et ça marche dans les apnées positionnelles sur le dos. Ça, c'est pris en charge, mais juste l'appareil. C'est vendu autour de 300 euros, je vous ai mis là, ça dépend des modèles. Mais après, il y a toute la mise en bouche qui n'est pas prise en charge. Donc, il y a environ 300 à 400 euros payés par le patient. Ça s'appelle les OAM ou orthèses avancées mandibulaires. Et puis, il y a le système Caldo ici. Vous voyez, c'est donc un gros coussin qu'on met dans le dos. Et ça, c'est le système de la balle de tennis. Mais la balle de tennis a un gros inconvénient, à mon sens, c'est que cette balle de tennis, vous la mettez dans le dos, il faut en mettre 3 en forme de triangle. Donc on conseille de mettre ça dans un gant de toilette par exemple et puis on va coudre ça sur le pyjama et quand vous passez sur le dos, eh bien ça vous fait mal et ça, hop, automatiquement vous vous remettez sur le côté. Donc vous n'avez pas d'apnée mais vous avez des éveils. Donc c'est moins efficace que ce système là qui vous empêche de passer sur le dos, mais l'inconvénient de ce système en revanche c'est qu'il vous met toujours dans la même position. Vous pouvez absolument pas passer sur le dos et pour changer de côté, eh bien il faut se réveiller et se mettre sur le côté, mais ça marche très bien. Et ça, c'est nous, on l'a testé, ça marche très bien au niveau du laboratoire. On a fait des études scientifiques là-dessus et ça marche bien. Facteur de risque du syndrome d'apnée du sommeil, hein, il existe des éléments qui vont surajouter, qui vont se surajouter pour augmenter le risque de syndrome d'apnée du sommeil. Eh bien, le poids, le surpoids et l'obésité. Donc, si on fait perdre du poids à cette personne, donc vous savez, dans les hyper-obèses, l'obésité morbide, ce sont des gens qui vont peser 130, 150, 170 kilos. Eh bien, nous, on les enregistre toujours avant une intervention chirurgicale, la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'estomac, en quelque sorte. On réduit la taille de l'estomac et les gens vont maigrir de manière importante, 50, 60 kilos. Ils vont passer de 170 à 100 kilos ou de 130 kilos à 80. C'est très impressionnant, ça peut marcher de manière... On peut enregistrer ces patients, il n'y a pas d'apnée. Même à 200... On a fait... Notre patient le plus gros faisait 210 kilos. Il n'avait pas d'apnée. Vous voyez que ce n'est pas le poids en soi qui est l'élément, mais c'est un élément surajouté. Mais généralement, il y a souvent, enfin dans 30, disons 50% des cas, il y a des apnées. Si la personne maigrit, avec cette technique-là, ou volontairement, eh bien, il n'y aura plus d'apnée. Malheureusement, on ne peut pas le garantir. Donc la personne maigrit parfois de manière importante, 20-30 kilos. On voit les apnées diminuer mais persister. Donc il faut garder le traitement. Mais on peut aussi avoir une réduction, une disparition complète des apnées du sommeil. Et à ce moment-là, la personne n'a plus besoin de son traitement. Donc tant que la personne n'a pas maigri suffisamment, elle a son traitement, la pression positive continue. Puis lorsqu'elle est suffisamment maigre, eh bien on regarde sans la machine si elle a des apnées. Si elle n'a plus d'apnée, eh bien la machine disparaît. Donc, on peut guérir d'un syndrome d'apnée du sommeil par la perte de poids. Mais on ne peut pas l'assurer à la personne. Mais il faut tenter. Donc, l'âge, évidemment, plus on vieillit, plus on a des risques. Le tabac, l'alcool, les médicaments sédatifs, en particulier les hypnotiques pour dormir. La personne a un sommeil déstructuré, elle se sent fatiguée le matin. Le raisonnement, c'est que je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. Donc, je veux mieux dormir. Les apnées survenant plus facilement le soir, en sommeil léger, la personne ne dort pas. Je ne dors pas le soir, je prends un hypnotique pour m'endormir. La personne dort effectivement un peu mieux, enfin elle s'endort plus vite, mais l'hypnotique, le somnifère, va induire des apnées, va augmenter le nombre d'apnées et va augmenter la durée des apnées. Hein, donc il faut prévenir et agir tôt, quoi, éventuellement. Donc moi je vous dis, s'il y a des ronflements, essayez de voir s'il y a une fatigue dans la journée, essayez de voir si ce ronflement, comment voir, on ne va pas enregistrer tous les patients, toutes les personnes qui ronflent, ce n'est pas possible. Demandez s'il y a une personne à côté, si elle a remarqué qu'il y avait des erreurs respiratoires la nuit, et surtout si la personne se sent somnolente, c'est un signe très fort. Est-ce qu'elle va uriner 2-3 fois par nuit? Est-ce qu'il y a des maux de tête le matin? Donc des complications simple, des petits symptômes simples, mais s'ils sont présents avec un ronflement, il faudra consulter pour voir s'il n'y a pas d'apnée du sommeil. Si la personne veut se faire opérer de ce ronflement, eh bien là, on va nécessairement enregistrer la personne avant toute intervention pour le ronflement, parce qu'une fois opéré, le ronflement disparaît, mais les apnées restent. Hein, l'intervention pour le ronflement fait disparaître le ronflement, pas toujours, mais souvent. Mais ne fait pas disparaître les apnées. Alors l'inconvénient, c'est que la personne ne ronfle plus, mais le conjoint, la compagne ou la personne qui est à côté n'entend plus les ronflements et n'entend plus les apnées. Hein, les apnées, on les entend très bien, l'arrêt du ronflement. Hein, et puis, donc, vous voyez, eh bien, ça peut être que quelquefois, il y a une évolution, voilà, quelquefois, de temps en temps, quand on a pris un peu d'alcool, on va ronfler, et puis on va faire quelques apnées, puis si on a une hygiène de vie correcte, on ne va pas faire ces apnées, et on n'aura rien. Donc, c'est pas parce qu'une fois, de temps en temps, on fait quelques apnées, qu'on ait un syndrome d'apnée du sommeil. Et puis après, ça peut devenir régulier sur le dos. Donc, à chaque fois qu'on est sur le dos, on fait des apnées, on ronfle très fort, et puis ça gêne la compagne, et puis c'est le coup de coude, on se met sur le côté, et puis là, ça s'arrête, on repasse sur le dos, car quand vous dormez, vous ne savez pas la position que vous prenez, mais si vous avez une difficulté respiratoire, vous avez tendance à vous mettre sur le dos automatiquement pour allonger, se mettre en extension ici, et ça facilite le passage de l'air au niveau des voies aériennes. Et si vous remarquez dans la rue un enfant qui marche avec la tête en avant, comme ça, un peu, hein, et puis qui respire par la bouche, et bien cette personne-là, ce jeune, il faut lui dire d'aller consulter un ORL parce qu'il est dans difficulté respiratoire. Un enfant ne doit pas respirer par la bouche, et surtout pas la tête en avant avec la bouche ouverte. Et ces enfants-là, qui ont des problèmes de respiration, le jour, ils les ont aussi la nuit. Ils sont à risque de faire des apnées la nuit, et ils risquent de grossir et d'avoir des difficultés d'apprentissage scolaire. Donc c'est un gamin qui va être parfois pénible à vivre parce qu'il est hyperactif, il ne dort pas bien, ça se traduit par une hyperactivité. Donc là, si c'est régulier sur le dos, on peut prévenir en prenant un système qui va empêcher de passer sur le dos. Il y en a sur Internet, vous pouvez en trouver. Régulier dans toutes les positions, là ça devient plus gênant parce que vous soyez sur le côté ou sur le dos, vous avez des apnées tout le temps. Donc là, il n'y a pas d'autre solution. Soit de maigrir si on a un surpoids important, mais je ne vous garantis pas que ça fera disparaître les apnées. Autrement, c'est le traitement, soit la machine, soit les orthèses d'avancée mandibulaire. Et ça, c'est les apnées obstructives avec tous les risques que je vous ai mentionnés. Et il faut avoir, je vais arrêter là, les règles pour un bon sommeil. Donc je ne vous les donne pas toutes, mais il y en a plein. Vous pouvez consulter le site, il y a toutes les règles pour bien dormir. Mais ça, c'est très important. Faire de l'exercice physique le jour et pas la nuit. Et ça, ça va faciliter la perte de poids. Avoir des horaires de sommeil réguliers. Si vous avez des horaires de sommeil très irréguliers, eh bien ça, c'est une perturbation du sommeil. L'horloge biologique ne sait pas à quel moment elle doit vous faire dormir. Vous allez avoir un sommeil de mauvaise qualité. Sommeil de mauvaise qualité égale risque de prise de poids possible. Éviter l'alcool, café ou nicotine après le déjeuner. Alors l'alcool et le café en particulier, si vous en prenez beaucoup, ça vous empêche de vous endormir. Donc ça vous fait une insuffisance de sommeil. Et quand vous dormez, eh bien, vous êtes à risque de faire des apnées parce que vous êtes en insuffisance de sommeil. Prendre un repas léger le soir, éviter de faire un seul repas copieux le soir, et puis avoir une chambre idéale. Ça, vous avez sur notre site un petit diaporama sur la chambre idéale. Voilà. Donc les apnées du sommeil, retenez que c'est très fréquent dans la population. C'est des gens, grosso modo, qui sont en léger surpoids ou en fort surpoids, qui ronflent, qui ont un trouble diurne associé, somnolence ou des maux de tête le matin, parfois, pas toujours. Et la nuit, souvent, ils se lèvent la nuit pour uriner et ils ronflent et ils s'arrêtent de respirer. Ça, c'est vraiment le classique. Et on va, à ce moment-là, le seul moyen pour faire le diagnostic, c'est d'enregistrer le patient, donc d'adresser ce patient, soit un pneumologue, soit un ORL. Maintenant, les ORL, certains ORL font des enregistrements, soit un centre de sommeil pour un enregistrement. C'est le seul moyen de faire le diagnostic avec certitude. Voilà, je peux répondre à toutes vos questions si vous voulez. Non, il n'a pas été démontré d'hérédité, mais il y a un caractère familial. Et on pense que c'est plus... Parce que, bah, évidemment, par exemple, la configuration des mâchoires, le surpoids, l'hygiène alimentaire, tout ça fait que dans une famille, on peut avoir un environnement qui va favoriser l'apparition des apnées. Mais on n'a pas démontré, en tout cas, de caractère génétique ou héréditaire du syndrome d'apnée du sommeil. Mais on peut retrouver il y a une famille, on va retrouver plusieurs syndromes d'apnée du sommeil. Parfois même, on a le couple, hein, l'homme et la femme, mais donc là, il n'y a pas d'hérédité. Mais, Mais il n'y a pas d'hérédité au sens transmission par les gènes. Alors c'est, ça peut être immédiat.
D'accord.
La première nuit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ça
Oui.
c'est vrai pratiquement toujours quand le syndrome d'apnée est sévère, avec une forte somnolence. Dès la première nuit, les gens vont récupérer de manière très importante, hein, l'absence des, le traitement est efficace tout de suite, hein, ça fait disparaître les apnées dès la première nuit. On est obligé de trouver la bonne pression. Certains patients, il va falloir monter à 4, à 5, 6, 10 cm d'eau, d'autres à 12, etc. Mais maintenant, les machines montent toutes seules. Donc ça peut être dès la première nuit, et le lendemain, le patient est vraiment très surpris d'ailleurs de se sentir aussi bien. Parfois, c'est un peu plus long. Alors, quand c'est plus long, c'est souvent des gens plus jeunes, moins gros, qui ont peu de symptômes. Par exemple, un sujet hypertendu, à qui on dit ben, on n'arrive pas à l'équilibrer sur le plan tensionnel, faites un examen pour voir si vous n'avez pas des apnées. Lui, il ne se plaint pas de somnolence parce qu'il ne l'a pas perçu, ou c'est quelqu'un d'actif, puis la somnolence n'est pas majeure. Donc, il n'a pas perçu les symptômes qu'il pourrait avoir éventuellement. Puis, ses symptômes vont être peu marqués. Et on va le traiter parce qu'il a une hypertension difficile. Et puis on a découvert à ce moment-là la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil. Donc ces personnes-là sont plus difficiles à traiter. Il va falloir plusieurs semaines, voire 2, 3 mois. Et on va être obligé de les convaincre de continuer le traitement. Et puis certaines personnes vont dire, mais non, moi ça ne me fait rien du tout. Mais c'est assez rare, mais ça peut arriver. Hein. Donc c'est parfois magique, parfois ça ne l'est pas du tout. Donc si la personne ne supporte pas la pression positive, il y a les orthèses d'avancée mandibulaire qui peuvent aider aussi. Et après, ben, on est embêté. Quand la personne ne supporte rien, il faut absolument faire maigrir. S'il n'y a rien, il faut convaincre la personne de s'adapter. Mais ce n'est pas toujours facile. Et plus la personne est jeune, plus c'est difficile. Et il y a un syndrome qui n'est pas le syndrome de l'apnée du sommeil, mais qu'on appelle, qui est l'équivalent, qui est le tout début en quelque sorte, qui est le syndrome de résistance des voyelles supérieures. C'est-à-dire que là, l'air passe normalement, mais avec difficulté. Donc on fait des efforts pour respirer, mais la respiration se passe normalement. La quantité d'air qui passe est normale. Mais il y a des efforts qui sont trop importants. Et là, il n'y a aucun problème, la personne n'a pas de somnolence. Parfois, elle se lève la nuit pour uriner, mais c'est une fois et ce n'est pas toujours. Mais ce syndrome de résistance des voyelles supérieures est difficile à traiter. Mais c'est un cas très particulier, mais c'est souvent chez des sujets jeunes. Et ensuite, ça va s'aggraver progressivement pour atteindre le syndrome d'apnée du sommeil, mais ça peut être 10, 15, 20 ans après. Oui?
Je voulais juste avoir un autre détail. Si le symptôme de fatigue persiste dans le temps, malgré 3-4 mois de traitement par la PCC,
Ça peut, oui.
qu'est-ce que vous en dites?
Alors, parfois, ça peut mettre plus d'un an avant de disparaître, mais on peut avoir d'autres causes de somnolence. Nous, souvent, moi je le dis souvent aux pneumologues, c'est ce qu'on appelle la somnolence résiduelle sous PPC, c'est-à-dire que les gens ou fatiguent. Il y a une confusion parfois entre somnolence et fatigue dans l'esprit des gens. Donc, cette somnolence ou cette fatigue va persister malgré le traitement. Alors, les pneumologues souvent vont insister pour bien régler. On peut régler le masque, changer de masque, essayer de trouver qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas bien. On fait des enregistrements répétitifs, deux, trois fois, pour voir s'il n'y a pas des apnées résiduelles, s'il ne reste pas quelques événements, ou si le niveau de pression est satisfaisant. Donc, on fait tout ça et on ne trouve rien par rapport à la respiration. On ne trouve rien, tout est bien. Ça s'appelle une somnolence résiduelle sous PPC. Parfois, on va donner à ce moment-là des médicaments éveillants. Avant, on avait la possibilité, il y avait une AMM pour des médicaments éveillants. Maintenant, on n'a plus le droit de le faire. Parfois, on le fait quand même. Mais très souvent, dans ces cas-là, en fait, c'est que la personne a autre chose. C'est qu'elle est somnolente pour une autre cause. Et la cause la plus fréquente dans ces cas-là, c'est l'insuffisance de sommeil. C'est la personne qui va dormir 6 heures au lieu de dormir 7 heures ou 8 heures. Et donc, elle a en partie récupéré sa somnolence lié aux apnées, mais il reste un fond de somnolence qui n'était pas lié aux apnées, mais à autre chose. Et ça, c'est très fréquent. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas autre chose, déjà, au niveau de l'hygiène de sommeil. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas de troubles d'hygiène de sommeil, qui n'ont rien d'autre, qui restent somnolents sous PPC, mais c'est extrêmement rare. Souvent, on retrouve quelque chose. Il faut regarder s'il n'y a pas une hypothyréodie associée aussi. Oui?
peut être commentant comme ça. J'étais intéressé parce que j'irai d'ailleurs vous voir, j'ai rendez-vous à votre service le 27 novembre. Et donc j'ai des apnées, j'étais allé voir donc un spécialiste, et ce qui m'avait un petit peu découragé, c'est qu'il me proposait une rhinoplastie. Alors je regardais ça sur internet, ça ne m'a pas trop du tout encouragé à le faire. Et donc c'est pour ça que j'ai envoyé un dossier avec l'explication de tout ce que ce docteur m'avait fait, et j'ai été retenu. Bon, alors bon, je vais voir avec vous. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était cette opération. Des personnes de ma connaissance l'ont fait faire. Bon, ce n'est pas agréable du tout. Enfin, toute opération n'est pas agréable, bien sûr, bien que le docteur dise c'est rien. Bon, ça, c'est la routine. Et je ne pense pas, moi, que ce soit la bonne solution. Bon, je ne sais pas.
La rhinoplastie n'a rien à voir, si vous voulez. Hein. C'est un problème au niveau du nez. C'est une déviation, en général, c'est une déviation de la cloison nasale. Ouais. Et ça ne provoque pas d'apnée. Ça provoque des résistances au niveau du nez, mais pas des apnées. Donc, s'il y a des apnées, c'est qu'il y a un problème au niveau des voies aériennes supérieures, ce que je vous ai expliqué. Ouais. Chez l'enfant, ça peut être lié à des grosses amygdales ou des grosses végétations. Donc, on va enregistrer même. La rhinoplastie ou l'intervention pour traiter les apnées ne va rien faire du tout. Hein, ça, c'est sûr. En revanche, il faudra peut-être quand même faire la rhinoplastie si vous avez des apnées. Enfin, excusez-moi, c'est simplement parce que si on ventile, il faut que l'air puisse passer. Et parfois, quand il y a des cloisons nasales extrêmement déviées, eh bien, l'air a des difficultés à passer, puisque en fait, ça peut passer que de temps en temps au cours de la nuit, car au cours de la nuit, vous avez un cycle narinaire, c'est-à-dire qu'une narine respire, et puis une autre, un peu mieux. Vous voyez, la muqueuse nasale se gonfle. Et donc, vous avez une alternance, en quelque sorte, de l'air qui passe mieux d'un côté, puis mieux de l'autre. Et ça, c'est avec un cycle d'environ 2 heures. Donc, sur un sujet qui n'a pas de difficulté, il ne s'en rend absolument pas compte, puisque ça passe des deux côtés, mais mieux d'un côté que de l'autre de temps en temps. Enfin, en alternance, à peu près avec un cycle de 2 heures. Mais pour une personne qui a la cloison nasale un peu déviée ou qui a des polypes, eh bien, quand la bonne narine respire, il respire normalement. Puis quand la narine, l'autre côté, ça gonfle un peu, mais ça se bouge, quoi. Donc là, on peut être amené à opérer simplement pour que l'air par la machine puisse passer normalement toute la nuit, quoi.
Il n'y a pas d'autre moyen d'éviter une opération par un autre système, que bien sûr, je suis totalement...
Non, mais il faut d'abord essayer, il faut voir. On essaie la machine et puis après, on voit. Il faut d'abord faire l'enregistrement, le diagnostic, regarder le type d'apnée, parce qu'il y a différents types d'apnée, comme je vous ai expliqué, et puis voir surtout la quantité d'apnée qu'il y a par nuit. Parce qu'il y a aussi des erreurs de diagnostic, hein, malheureusement. Il y a des machines qui vont faire l'analyse automatique des tracés de sommeil, de l'analyse de la respiration au cours de la nuit. Et il y a encore un certain nombre de médecins en France et dans la région, hein, qui vont se fier à cette analyse automatique qui va donner beaucoup d'apnée, mais simplement l'appareil se trompe. Et nous, on a déjà enregistré des patients qui n'avaient pas du tout d'apnée, mais qui avaient la machine. Et qui n'étaient pas bien, parce que si vous n'avez pas d'apnée et que vous êtes traité avec la machine, bien sûr, vous n'êtes pas bien. Tout simplement parce qu'on a fait confiance à une analyse automatique. Donc il faut vraiment que le diagnostic soit fait correctement. Mais si on vous a dit que vous avez des apnées, il est fort probable. Oui ?
Bonjour, moi j'ai une question, c'est au niveau des navigateurs. Est-ce que vous savez comment les navigateurs peuvent réguler leur sommeil, puisqu'ils dorment une fois de temps en temps, et on est toujours impressionné quand ils font la course du Rhum, de les entendre dormir de temps en temps, et puis quand on les voit...
Ça, on pourrait faire un topo sur le sommeil en conditions extrêmes, parce que ça, c'est des conditions extrêmes, en fait. Donc, vous pouvez moduler votre sommeil, en fait, sur une période assez courte, mais qui peut être, chez les navigateurs, relativement longue. Ça peut durer 2 mois. En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin d'une quantité de sommeil par 24 heures, mettons 8 heures. Si vous avez besoin de 8 heures... L'homme s'est adapté au fait que le mieux, c'était de dormir la nuit, parce que comme on ne voit pas la nuit, c'est mieux pour nous de dormir la nuit et de travailler le jour, en gros, quoi. Mais finalement, la réflexion, c'est que si je dors 2 heures, 2 heures, 2 heures et 2 heures de manière discontinue dans la journée, ça fait quand même 8 heures. Mais en dormant 2 heures, il me reste encore 4 ou 6 heures à contrôler mon bateau. Donc en fait, ce que font les navigateurs solitaires, pas tous, hein, c'est qu'ils apprennent à gérer un temps court de sommeil en alternance avec une période d'éveil. Donc ça s'appelle des cycles ultradiens du sommeil. Donc ça s'étudie, on étudie ça auparavant avec le navigateur. On enregistre son activité par acquimétrie, on enregistre ses mouvements en fait dans la journée. Et on regarde son rythme de sommeil, son cycle de sommeil, est-ce qu'il est d'une heure et demie, de 90 minutes, de 80 minutes, 60 minutes. Et ensuite, on va adapter dans la journée sa période de sommeil. On va lui dire, ben, toi, tu peux dormir 60 minutes toutes les 3 heures. Et puis, donc, ce rythme, il va essayer de le tenir. En sachant qu'il y a un contrôle après sur Terre pour lui dire, mais là, tu as loupé ton sommeil parce qu'il est en train de naviguer, parce qu'il y a une course, il ne faut quand même pas que le bateau aille dans le récif. Donc, il peut manquer une heure de sommeil. Mais il y a des gens qui vont contrôler. Alors, ça, c'est une première façon. Donc, c'est des rythmes ultradiens du sommeil. Il faut éduquer la personne. Et cette personne-là, en général, quand elle arrive à terre, reprend son cycle normal. Elle ne garde jamais ce rythme-là. Ce n'est pas un rythme physiologique. Ça ne se garde pas. Il ne faut surtout pas le faire, quoi. Mais elle a une motivation très forte, c'est de gagner la course. Donc, elle y arrive uniquement parce que son désir, c'est de gagner la course. Et donc, si vous n'avez pas une motivation très forte pour faire ça, ce n'est pas possible. La deuxième façon de travailler ou de faire, c'est de dire « je ne dors pas et je dormirai quand j'en ai envie ». Mais là, il faut choisir les bons moments dans la journée parce qu'on a une horloge biologique qui va nous dire « c'est plutôt à cette heure-là pour vous de dormir, par exemple 21h ». Donc, elle ne dort pas, mais quand elle a envie de dormir, elle va dormir plutôt à 21h ou plutôt à 4h du matin. On va choisir les horaires et là, cette période de sommeil va être plus longue. Ou il va dire « mais moi, je vais dormir 2h ou 4h ». C'est un choix. Ça se décide avec le navigateur. Donc il y a différentes techniques en fait. Ou pas dormir du tout et de dormir que quand on en a envie. Mais là, le risque, c'est de dormir, de s'effondrer et de ne plus contrôler le bateau pendant 10 heures. Parce que si vous êtes en dette de sommeil pendant 3 jours, quand vous vous endormez, ça peut durer longtemps. Hein. Donc il y a différentes techniques. Mais en général, on analyse la qualité et le rythme veille-sommeil de la personne avant.
Et est-ce qu'il y a une durée standard de cycle de sommeil ? On parle de 20 minutes ou de 3 quarts d'heure.
Enfin, non, le cycle de sommeil, c'est 90 minutes. Mais après, vous avez des rythmes ultradiens. Donc, si vous faites 20 minutes de sommeil, c'est des siestes ultra courtes. On peut faire 20 minutes et puis être réveillé pendant 40 minutes ou 2 heures et puis refaire 20 minutes. Il y a des gens qui peuvent faire ça, oui, tout à fait. Mais tout le monde n'est pas apte à faire ça. Ce qu'il faut surtout, c'est une forte motivation pour gagner. Et donc, si la personne est bien motivée, elle peut y arriver. Mais on ne le fait pas chez les apnéiques, hein. Et un navigateur, même en conditions extrêmes, peut avoir un appareil comme ça dans son bateau pour être efficace. Hein. On a des gens qui font du sport extrême qui sont apnéiques. Et si vous montez en altitude, pour les alpinistes, il y a des apnées d'altitude, il y a des difficultés respiratoires quand on monte en altitude.
De plus en plus de jeunes dans les piscines descendent dans l'eau, quoi, 1 mètre ou 2 mètres, et ne respirent pas, se bloquent la respiration des jeunes. Oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon,
c'est un entraînement. Vous pouvez, il y a des concours d'apnée. Il y a des gens qui font de l'apnée de manière sportive, qui peuvent s'arrêter plusieurs minutes de respirer. Je crois que le record, je ne sais plus, c'est 7 ou 11 minutes, je ne sais plus. Combien?
12 ou 11.
Bon, c'est des gens qui ont un entraînement extrêmement important, hein, mais on peut pas. Vous pouvez vous arrêter peut-être 20 secondes la nuit, 30 secondes, une minute, mais si je vous demande de vous arrêter une minute de respirer, vous ne pourrez pas. Donc ça, c'est dans des conditions particulières, c'est des gens très entraînés, et ça existe, hein, bien sûr, mais c'est une physiologie tout à fait particulière, parce que ce sont des gens qui vont vivre en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène pendant une période. Donc l'organisme fonctionne différemment.
C'est quand même dangereux, quand même.
C'est dangereux si vous êtes en piscine, au fond de la piscine, et quelqu'un vous empêche de remonter, ça devient très dangereux. Mais la personne qui fait ça, elle remontera automatiquement si elle a un besoin d'air et d'oxygène. C'est un réflexe. Hein. Si elle reste, si elle a des plombs aux pieds ou si elle a des chaussures de plomb, ça c'est sûr qu'elle ne pourra pas remonter. Mais le fait de faire une apnée dans l'eau sans contrainte, hein, si vous ne pouvez plus respirer, à moins que ce soit un suicide, hein, ça c'est autre chose. Mais si vous ne pouvez plus respirer, vous remontez. Hein. Vous ne pouvez pas ne pas respirer. C'est pour ça que vous vous réveillez la nuit quand vous faites une apnée. C'est que vous ne pouvez pas ne pas respirer. Comme vous ne pouvez pas ne pas dormir. Les gens qui disent « j'ai pas dormi de la nuit », ça fait 4 nuits que je ne dors pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est impossible de ne pas dormir. Donc ça, vous pouvez aussi le répéter. Les gens qui sont insomniaques, quand vous leur dites « vous ne pouvez pas ne pas dormir », ils sont convaincus qu'ils ne dorment pas de la nuit, mais ils ont dormi un petit peu. Parfois, c'est dans la journée. Non, mais ça, c'est dangereux. Mais c'est ce qui est le plus dangereux, en fait, c'est les gamins aussi qui vont faire des strangulations, des choses comme ça. Mais ça, c'est, ça n'a rien à voir, quoi. C'est... Bon.
Se fait comment
Des apnées ?
Non, ouais, le diagnostic des apnées, est-ce qu'il faut poser 2 jours par exemple
Le diagnostic, c'est une nuit d'enregistrement, soit à domicile, hein, par polysomnographie ou polygraphie, c'est des noms un peu barbares.
Que ce soit prescrit par un médecin généraliste ?
Ah oui, oui. Non, c'est le médecin généraliste, le médecin traitant va adresser, après une suspicion d'apnée du sommeil, va adresser la personne à un médecin spécialisé qui est capable de faire ce type d'enregistrement. Très souvent, c'est des pneumologues, mais pas toujours, ou au centre de sommeil, mais ça se fait très souvent en ville, de manière très, très simple. Là, le pneumologue va mettre en place, ou l'ORL, ou, va mettre en place un appareil qui s'appelle un appareil de polygraphie ambulatoire, parce que la personne peut se déplacer et retourner chez elle. Et l'enregistrement se fait de manière simple. On enregistre la respiration uniquement. On n'est pas obligé d'enregistrer le sommeil parce qu'on sait ce qui se passe si la personne est apnéique maintenant. La respiration et le taux d'oxygène dans le sang. C'est des capteurs, c'est très simple. Et la personne passe la nuit chez elle en général, à domicile. Et le lendemain matin, on ramène l'appareil chez le pneumologue ou au centre de sommeil. Et là, ensuite, il y a un deuxième temps d'analyse par une personne, pas une analyse automatique. Et c'est là... Ensuite, que la personne, le médecin dira, eh bien, vous avez un syndrome d'apnée du sommeil ou vous n'avez pas, ou vous êtes entre les deux. Je ne sais pas. À ce moment-là, il faut faire un deuxième enregistrement plus complet avec le sommeil pour voir la qualité du sommeil. Parce qu'il y a des syndromes qui sont subtils, qui ne sont pas aussi caractéristiques que ce que je vous ai décrit. Et donc, à ce moment-là, il faut avoir des éléments sur la qualité du sommeil lui-même pour pouvoir faire le diagnostic. Mais c'est beaucoup plus rare. Donc, la plupart du temps, on fait un diagnostic de manière très, très simple. Où on élimine un diagnostic aussi, car l'enregistrement à domicile, il a 2 indications, soit pour affirmer le diagnostic quand on en a la certitude clinique, soit pour affirmer que le patient n'a pas de syndrome d'apnée du sommeil. Et quand on est dans le doute, il vaut mieux faire directement l'enregistrement complet. Mais c'est assez facile à faire le diagnostic, hein, c'est pas compliqué. Mais bon, l'enregistrement, ça coûte à la Sécu, ça coûte 150 €. À peu près à domicile. Et c'est remboursé. C'est bon ? Plus de questions ? Oui ?
Vous parlez d'anomalie facial, facteur de risque du syndrome d'apnée. Vous pouvez développer ?
Oui. Alors, vous avez vu que tout se passe en arrière, la base de la langue. Donc, on a la base de la langue qui est en arrière. Et derrière, il y a la paroi du pharynx et entre les deux, il y a la colonne d'air qui va passer. Pour les gens qui ont un menton qui va, une mâchoire qui va être en arrière, hein, ce qu'on appelle une rétrognathie, c'est-à-dire que la mâchoire ne vient pas normalement en avant, mais c'est un petit menton court. La mâchoire est en arrière hein, et donc la base de la langue est déjà en arrière. Et quand la personne se couche, eh bien ça fait comme pour les personnes qui ont pris un peu de poids, mais là, c'est à cause de la mâchoire, de la forme du visage, de la mâchoire, eh bien la base de la langue va se mettre tout de suite en arrière et toucher le pharynx. Et donc, c'est une déformation, enfin, ce n'est pas une déformation, mais c'est une malformation du maxillaire inférieur et qui induit ça. Alors, souvent, ce sont des maxillaires un peu étroits et courts. Donc ça donne un menton un peu court, ça se voit sur certaines personnes assez facilement, et sur d'autres pas du tout, bien que la mâchoire soit un peu mal formée en quelque sorte, parce qu'il y a les muscles qui compensent et on ne voit pas cette anomalie faciale. Il faut faire une radio de profil, ça se voit très bien. Et puis il y a des anomalies aussi, le palais va être étroit, hein, ce sont des gens qui ont souvent un visage assez long. Donc ces anomalies maxillofaciales sont parfois difficiles à détecter, il faut faire des radios, mais parfois on le voit très bien en voyant la personne, surtout de profil. Donc de face, on voit une personne avec un visage assez long, et de profil, on voit un menton qui est en arrière. Et la personne va se plaindre de somnolence ou de ronflement chez une femme, par exemple. Une femme qui ronfle, qui n'est pas obèse et qui a un menton un peu en arrière, eh bien, font penser à ça. Parce que le syndrome d'apnée du sommeil existe chez la femme. Hein. C'est pas en particulier après la ménopause. Donc c'est ce type d'anomalie qui a parfois... Après, il y a des anomalies extrêmement sévères chez l'enfant, mais c'est très rare. Ce n'est pas des anomalies marquées. Hein. Le visage n'est pas déformé. C'est assez subtil hein, comme anomalie, mais ça suffit pour réduire la filière pharyngée, donc l'espace où l'air passe derrière. Et ben, ça s'obstrue très facilement. Et la personne, en fait, c'est ces personnes-là qui ont les résistances des voies aériennes vont avoir des difficultés à respirer, en particulier la nuit. Il n'y a pas forcément d'apnée, mais il y a une difficulté respiratoire. Ils sont obligés de faire des efforts plus importants que la normale. Et ça a les mêmes conséquences. Oui ? Non, quel que soit l'âge, il faut dormir normalement et le manque de sommeil a les mêmes conséquences, quel que soit l'âge aussi. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne dort pas assez, un adolescent qui ne dort pas assez, va avoir les mêmes conséquences qu'un adulte qui ne dort pas assez. Alors les conséquences quand on ne dort pas bien ou pas assez, l'altération de laquelle vous pouvez dormir 8 heures, les personnes apniques vont dormir 8 heures, 9 heures en 10 ans, mais moi je dors tout le temps. Je n'ai aucun problème pour m'endormir, je dors. D'ailleurs, dès que je m'assois quelque part, je dors. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est clair qu'il dort de trop. Vous devez pouvoir résister à l'endormissement dans la journée. Donc ça, c'est clair. Donc si on ne dort pas assez ou si le sommeil est altéré, quel que soit l'âge, ça va avoir les mêmes conséquences. C'est-à-dire c'est des conséquences métaboliques, c'est-à-dire sur l'organisme, la prise de poids, le risque de diabète, c'est l'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'organisme va résister à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui diminue le taux de sucre dans le sang. Donc c'est le risque de diabète, c'est le risque de prise de poids, c'est le risque cardiovasculaire, y compris chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est la même chose. Donc il y a ce syndrome métabolique. Après, il y a le risque des troubles de l'humeur avec un sommeil qui ne permet pas de récupérer physiquement, ne permet pas non plus de récupérer psychologiquement. Et si on n'est pas bien, tout le monde a senti ce caractère irritable qu'on peut avoir après une mauvaise nuit. Hein, vous allez renvoyer les gens sur les roses, etc. Donc on devient irritable, on peut avoir une composante dépressive, on devient plus anxieux. Donc les gens anxieux qui dorment mal, ils sont plus anxieux parce qu'ils dorment mal. Mais le fait d'être anxieux parce que je dors mal, ça rend encore le sommeil plus mauvais. C'est la même chose chez l'enfant. Il n'y a pas de différence sur les conséquences. En revanche, chez l'enfant, si ça dure, et les conséquences vont arriver plus tôt. Les troubles de rythme cardiaque, ça existe aussi, c'est exactement pareil. Les troubles de la mémoire, et chez l'enfant, ce qui est dramatique, c'est les troubles de l'apprentissage. On peut avoir des difficultés scolaires parce que simplement on ne dort pas assez. Pas assez, c'est l'insuffisance de sommeil. Chez l'enfant, nous on a fait des mesures, des enquêtes chez les collégiens, hein, les collégiens, entre la période d'école et la période de vacances, c'est 2 heures de sommeil en moins. Collégiens de 6e à la 3e et la 2e. 2 heures de sommeil. Ceux qui dorment le mieux quantitativement, c'est les 6e. Il leur manque que 50 minutes, en gros, en moyenne, par nuit. Et les secondes, c'est les plus dramatiques, c'est 2 heures. Et les terminales, ça doit être autour de 1 heure. Dans la région, là, hein, Sauzé-Vaussais, etc. C'est pas à Paris, hein, c'est ici. Et donc, 2 heures de sommeil en moins, ça fait une nuit de sommeil en moins pour des enfants ou des ados à la fin de la semaine. Et donc la prise de poids, et ça c'est démontré aux États-Unis et ça l'est en France aussi, il y a sur le site de l'Observatoire Régional de Santé, vous regarderez si vous avez cette curiosité, vous trouverez à un moment donné dans les pages, c'est pas toujours facile d'accès, mais la prise de poids dans la région, chez les ados, ça monte. Hein, en quelques années, on a une augmentation qui est à la même vitesse qu'aux États-Unis. La seule différence, c'est que nous, ça commence plus tard qu'aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est il y a 20 ans, 25 ans. Et cette prise de poids, elle est liée d'une part au régime alimentaire. Donc ça, aux États-Unis, on le sait bien, ils mangent à n'importe quelle heure, n'importe quoi, etc. Donc en France, on n'a pas encore ce problème de la régularité de la prise alimentaire, mais ça peut arriver. On commence à avoir le problème du régime. Qu'est-ce que je mange ? Les boissons sucrées aussi, beaucoup de boissons sucrées, et le manque de sommeil. Et le manque de sommeil est pour une part importante dans la prise de poids, sans qu'on puisse dire chez l'ado. Donc les enfants qui grossissent, il faut aussi penser à ça. C'est pas le seul facteur, bien sûr. Mais on compense. Qu'est-ce qui se passe quand on manque de sommeil ? Si on dort pas, eh bien on a faim. Et si on a faim, on mange. Et on mange à n'importe quelle heure. Et manger, ça fait grossir. Donc le fait de manger, ça fait grossir, mais simplement le fait de ne pas dormir, même sans manger, ça fait grossir. Voilà. chez l'ado. Alors chez la personne de 100 ans, le centenaire lui dort très bien. Il ne grossit plus. C'est bon, ça va ? Bah écoutez, je vous remercie. Et puis à la prochaine réunion. C'est une somnolence diurne excessive. Donc il y a différents diagnostics, mais si c'est le cas le plus fréquent, c'est ce que je viens de vous dire, l'apnée du sommeil. Ensuite, c'est d'abord l'insuffisance de sommeil, mais si la personne dort à peu près normalement dans la nuit, c'est pas ça. Et l'apnée du sommeil, ou alors c'est des pathologies beaucoup plus rares, hein, comme la narcolepsie ou l'hypersomnie idiopathique. Mais ça existe depuis l'enfance en général. Donc si c'est arrivé à 50 ans ou 60 ans, une personne s'endort à chaque fois qu'elle s'assied quelque part, il faut d'abord penser au syndrome d'apnée du sommeil. Ça, c'est donc faire explorer. Voilà.